Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Comme tu dis, ça, moi, ça me fait tout oublier, tu vois. Ça, c'est horrible, là, cette phrase, mais elle est vraie.
Ce sera l'intro du podcast.
C'est vrai, la zik, ça te fait tout oublier. Le pire qui puisse t'arriver en zik, c'est de ne pas sortir de zik. C'est le pire, et que ta musique ne vive pas et qu'elle reste que sur ton ordinateur.
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus, où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie. Et oui, aujourd'hui, j'ai une voix radio, car on ne s'interdit rien. N'oubliez pas de vous abonner à Nouvelle École sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. Un mot bizarre, podcast. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute.
Bienvenue, Mid.
Bienvenue. Merci.
Ben, je suis très content de te recevoir sur Nouvelle École.
Ouais.
Je te présente rapidement pour les gens qui écoutent. Mid, je sais pas comment tu te définis. Moi, je dirais que tu es à la fois producteur de musique, DJ, musicien peut-être en fait.
Ouais,
tout simplement.
Ouais, musicien.
Tu dis musicien?
Ouais, compositeur de musique après, donc ou DJ si tu veux simplifier pour quelqu'un de plus vieux, genre ils aiment bien dire DJ, comme ça tu comprends que c'est un peu électronique.
Mais... Ah, t'expliques comme ça quand les gens sont plus vieux?
Ouais, non mais je dis compositeur de musique.
D'accord. Et tu fais partie maintenant du label Headbanger.
Ouais.
Qui est le label donc de Pedro Winter, où il y a Justice, où il y a Mister Oiseau, où il y a tout ce monde-là, quoi. Ça, c'est depuis un an.
Un an, ouais, ça va bientôt être l'anniversaire.
Et avant ça, t'as été dans différents labels, dont Bromance, mais t'as aussi, tu fais partie du groupe Club Cheval.
Ouais.
Vous avez sorti votre premier album, enfin, le premier LP,
il y a deux ans,
qui s'appelait Discipline.
Ouais.
Et donc, voilà. J'ai fait une présentation,
rapide, mais ouais, plutôt. Après, c'est qu'il y a eu plein d'étapes. Il y a eu, ça fait, je sais pas, 10 ans que je fais de la musique, tu vois.
On va en parler d'ailleurs.
Ouais, que j'ai sorti mes premiers disques, mais ouais, du coup, il y a eu plein d'étapes. Après, il y a c'est ça, Bromance, Headbanger, Club Cheval, c'est un peu les bases de l'ADN du bonhomme.
De toi, quoi.
Ouais.
Parce que tu viens de Lille. C'est ça?
Ouais.
Et t'as commencé, j'ai lu pas mal ton histoire, j'ai pas mal fait de recherches, etc. Et en fait, t'as fait des études à la Fémis.
Ouais.
Mais avant, en tant qu'ingé son.
Ouais.
Mais avant ça, tu faisais déjà de la musique beaucoup ou pas?
Ouais. Je faisais plein de musique. En fait, je faisais déjà de la musique quand j'avais 14-15 ans. C'est-à-dire quand j'avais déjà l'ordi de mon daron et puis j'avais un logiciel qui s'appelait Hip Hop EJ.
C'était en rapport avec EJ?
Ouais, c'est ça, EJ, ouais.
Okay.
En fait, EJ, c'était une marque de logiciel très, très easy pour faire de la musique avec des boucles prédéfinies. Et en fait, tu mettais des boucles ensemble et elles allaient toutes les unes avec les autres. Donc, tu faisais assez vite des morceaux, tu pouvais enregistrer ta voix, tu pouvais faire des trucs. Et mon père, il a toujours baigné un peu dans la zik. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un clavier chez moi. Lui, il jouait du piano. C'est pas son métier, mais c'était une de ses passions. Donc, il y a toujours eu des logiciels de son chez moi. Et
lui, est-ce qu'il t'y avait mis un peu au départ?
Non,
ou...
pas du tout. Enfin, si, mes parents, ils ont essayé de me mettre au solfège, mais assez vite, c'est barbant. Et donc, en fait, je crois que j'en ai fait 2 ans, les 2 premières années un peu super chiantes. Et j'ai dit que je voulais plus en faire.
Parce que quand tu fais du solfège, quand t'es gamin, moi, j'ai pas fait de solfège vraiment. Mais quand t'en fais, en fait, on t'apprend vraiment que le solfège, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est
on t'apprend les gammes, mais
ce qui est normal, tu vois, c'est comme si, avant d'écrire, on va t'apprendre les lettres, on va t'apprendre. Donc voilà, comment dessiner un A, et le A, ça fait la ah, tu vois, c'est au début on t'apprend les notes et on t'apprend à lire les notes, et ça en fait, si t'es pas excité par ça ou obligé, à un moment t'arrêtes.
Oui, c'est ça, parce que je suis pas sûr que la plupart des gamins soient excités par ça.
Non, je crois pas. Sauf si par exemple, j'imagine que si t'as un parent musicien qui sait lire la musique et qui lit la musique chez lui, et que tu peux être un peu excité à l'idée de toi aussi apprendre à faire ça, mais sinon je crois que ça donne pas du tout envie, quoi.
Ouais, et du coup, sinon, t'avais des donc t'avais du matos qui traînait.
Ouais, j'avais du matos qui traînait, des logiciels sur les ordi. Donc, je te dis ça, c'est du coup il y a 15 ans. Donc, c'était encore c'était un peu roots, tu vois. C'était un clavier MIDI, des trucs avec des banques de sons de piano, Hip Hop IJ que j'avais eu à mon anniv.
Ah, tu l'avais demandé à ton anniv?
Ouais, j'avais demandé Hip Hop IJ, et à l'anniv d'après, j'avais demandé les packs supplémentaires pour avoir plus de sons dans Hip Hop IJ. Et après, mon meilleur pote avait Dance IJ, mais les deux logiciels n'étaient pas compatibles. C'est-à-dire que si t'avais Hip Hop IJ, tu faisais du hip hop, si t'avais Dance IJ, tu faisais de la dance, mais tu pouvais pas prendre les sons de l'un et les foutre dans l'autre. Ce qui était un peu idiot. Mais bon, bref. Et donc, on faisait du son.
On faisait du son ensemble sur IJ, quoi.
Et avec ce pote-là, en fait, on écoutait que de la musique électronique. Parce qu'en fait, souvent, ça vient d'un grand frère. Mon grand frère à moi écoutait du rock. Et le grand frère de Spot revient un jour de Russie avec des compiles que de musique anglaise. Mais tu sais, les faux albums. En Russie, tu t'achetais un album et ça avait un nom qui n'existait pas, avec des espèces de phase B, de Fatboy Slim, Chemical Brothers, Prodigy. Et en fait, du coup, moi, je me suis mis à écouter que ça. Parce qu'en fait, c'est un peu que ce que j'avais. Et du coup, j'ai écouté que de la musique électronique dans ma jeunesse. Et vu que je faisais de la musique sur ordinateur, en fait, il y a eu un truc très électronique, c'est-à-dire que je suis directement allé vers la musique électronique, quoi.
Ouais, parce qu'en plus, les premières musiques dans lesquelles tu baignes vraiment, elles te marquent un peu toute ta vie, quoi, finalement. Ça reste un peu toujours ton premier amour.
Mais ouais, et ça, on n'y pense pas assez, en fait, que la musique que t'écoutes, j'ai l'impression, entre 10 ans et 16 ans, ouais. C'est un peu ce qui va déterminer tes goûts musicaux pour après. Ça veut pas dire qu'ils vont pas évoluer, ça veut dire qu'en fait ça va déterminer ton ouverture d'esprit, ton goût pour chercher, pour être un peu touché par des trucs plus chelous. Du coup, c'est hyper important, et moi ça a changé ma vie, du coup, tu vois. Parce qu'en fait, je suis sûr que si au lieu d'écouter Chemical Brothers, j'avais écouté Blink 182 comme les mecs du lycée,
quoi.
Par exemple, et ben en fait, du coup, tu vois, j'aurais jamais acheté un DVD de Fatboy Slim. Enfin, je te le fais rapide, mais en gros, j'achète l'histoire de ma musique, c'est je fais de la musique sur Hip Hop IJ et autre logiciel du genre. Donc d'être un jour, j'achète un DVD de Fatboy Slim chez Auchan. Tu sais, quand tu fais les courses avec ton père, tu commences avec le chariot et tu passes par le rayon DVD.
Ouais, exact.
Et là, je vois un DVD de Fatboy Slim et je dis, ah, je peux l'acheter, s'il te plaît. Il me fait, ouais, vas-y et tout. Et en fait, c'est et quand t'achètes des trucs à l'époque, tu sais pas ce que c'est. Et là, c'est Fatboy Slim qui mixe devant 200 000 personnes à Brighton. C'est ces gros trucs Beach Big Boutique, c'est des énormes fiestas sur la plage. Et je dis, bon, bah, faut que mon prochain anniv... Du coup, les annivs sont hyper importants parce que ouais. C'est là où t'achètes ton matos, tu vois. Parce que du coup, t'as pas d'argent, tu vois. Moi, je crois que j'avais même pas d'argent de poche. Et du coup, c'était les annivs, tu vois. Et je dis à mon père, putain, ouais, là, il me faut des platines vinyles. Et donc, je crois que vers mes 16 ans, 16-17 ans, tu vois, on m'offre mes platines vinyles.
Attends, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te marque dans le DVD de Fatboy Slim qui fait que tu te dis, il me faut des platines?
Bah, le fait de mixer devant les gens, de les faire danser. Je trouvais que la musique, elle était trop bien. Je voyais qu'il jouait des morceaux qui étaient pas à lui aussi. Ça voulait dire que moi, quand j'écoutais un artiste, tu vois, c'était le époque, pour écouter de la musique, on allait sur Kaza, soit t'avais des CD, soit t'allais sur Kaza, ce qui était l'ancêtre de quoi, en fait.
Ouais, Kaza, l'ancêtre du torrent, peut-être.
Ouais, hein, ouais, en gros, t'allais sur Internet, t'avais un modem de merde et tu téléchargeais de la ZIC.
Ça te mettait un jour pour avoir ta musique.
Et t'en téléchargeais au pif un peu parce qu'en fait, t'avais des mauvaises versions, des remixes, tu téléchargeais un truc, c'était pas le bon, tu téléchargeais une vidéo de live, en fait c'était un film de cul, et puis je sais pas quoi.
Bah, surtout sur la fin, genre sur Emule, au bout d'un moment, vers les années 2008, 2009, 2010, c'était plus possible d'avoir un truc normal.
Ouais, c'était n'importe quoi, c'était vraiment devenu fou. Et, Et bref, pourquoi je racontais ça? Parce que
tu le voyais jouer des...
Ah ouais, donc en fait, c'était quand même compliqué de trouver de la musique. Maintenant, tu sais, sur Spotify, ils te font des recommandations, tu vois, c'est assez facile d'explorer des mondes de musique. Et là, en fait, je vois qu'il joue des musiques comme lui, mais c'est pas exactement la même chose et c'est plus cool. Et je me dis, putain, en fait, tout ça, je me dis, il y a un truc là-dedans qui est excitant et qui est, je sais pas, un mélange de fête, de zik. Et c'est un truc, en fait, qui m'a collé à la peau et qui a suivi. Et donc j'ai ces platines et mon père pour mon anniv de je crois de mes 16 ans, son collègue de boulot connaissait un DJ du nord de la France qui s'appelait DJ Adolphe. Alors DJ Adolphe, malgré son nom, il est black et c'est un peu une je devais dire légende, je me lance un peu là-dedans, mais en fait ce mec avait fait le tube Madhouse. Tu vois ce que c'est Madhouse? C'est un remix de Madonna en house, en fait, de Like a Prayer de Madonna.
Je pense que si je l'écoutais, peut-être ça me dirait quelque chose.
C'était un gros battu à l'époque. Et mon père, il me dit, bon, bah, je vais te le faire rencontrer. Tu vas là-bas, au-dessus du magasin de vinyle. Parce que moi, je commençais déjà à acheter vinyle au magasin de vinyle. Et tu vas le rencontrer dans son studio. Et puis, il va te montrer son studio. Et puis, il peut t'apprendre un peu à mixer.
Ça, c'était pour ton anniversaire?
Ouais.
Trop cool.
Mon père, il m'a toujours vachement soutenu.
Ouais, il a l'air
lui, dans un truc de m'acheter du matos et puis tu vois, genre m'aider dans ce truc-là, quoi.
Le côté t'aider à développer toutes tes intuitions créatives dès que tu les avais, quoi.
Ouais, je pense que c'était moins réfléchi que ça. C'était plus lui, ça le faisait kiffer que j'aime faire ça, quoi. Et du coup, je suis allé rencontrer ce mec, trop sympa. Le mec, je vais dans son studio, ça tue, tu vois, il me fait écouter de la zik et tout. Et puis, je passe pas énormément de temps avec lui, tu vois, genre 2 heures. Mais c'était ouf déjà, tu vois, c'était genre, waouh, trop bien.
Et ton père, c'était un service que le mec lui avait rendu ou il avait payé ou c'était...
Non, c'était un service, ouais, c'était bien, un peu un pote de pote. Et il a dit, ouais, mon fils, il aimerait trop, il commence à faire de la zik, tu vois, est-ce que ça te dit pas de rencontre, tu veux bien le rencontrer et lui dire 2-3 trucs, tu vois. Tu sais, comme si demain, moi, j'ai un pote, il me dit, ouais, j'ai mon gamin de 14 ans, je sais pas quoi, tu veux pas qu'il vienne 2 heures à ton studio? Je ferais, ouais, cool.
Attention, parce que tu vas recevoir beaucoup de messages.
j'ai dit d'un pote.
Et qu'est-ce qu'il t'avait dit, alors, le mec? Enfin, qu'est-ce que t'en avais retiré?
Qu'est-ce que j'en avais retiré? Je sais pas, il y a un truc un peu, J'ai pas eu un déclic en me disant, ouais, c'est bien, tout est possible et le monde, non. Je me suis juste dit, ouais, ça tue, tu vois, c'est trop bien, quoi, tu sais, genre, tu vois pour de vrai un truc, tu sais, tout comme quand j'allais au magasin de vinyle, bah, tu sais, j'achetais, je sais pas, t'achètes des vinyles et t'étais avec des adultes, tu vois, alors que toi, t'as genre 16, 17 ans, 18 ans, et tu sais, tu vas acheter tes vinyles, tu les écoutes, t'as pas de thunes, ça, un vinyle, ça coûtait, je sais pas combien ça coûtait, genre 10 euros, 12 euros, non. Et donc, tu sais, tu dis, ouais, putain, je mets 40 euros pour 4 vinyles, alors t'as bien intérêt à choisir tes chansons, parce que c'était des trucs de, ah, c'est pas genre, c'est pas un album, le vinyle, c'est genre, il y a un morceau
ouais,
par...
Ouais, tu sais pas vraiment ce qu'il y a dessus, en plus.
Ouais, non, si t'écoutes.
Tu pouvais écouter dans le magasin?
Ouais, c'est ça, okay. Qui était trop bien. Dans les trucs de house, tu fais ça, tu vas, et tu vas voir le vendeur, tu fais, ouais, j'ai bien aimé ça et ça. T'aurais pas des trucs un peu dans le genre, et puis après, il te dit, attends, tiens, prends ça, et c'était un magasin qui s'appelait USA Import à Lille, qui existe plus, évidemment. Bref. Et donc j'achète des vinyles, je fais ma petite collection, je mixe dans ma chambre, j'impose mes mix à la nuit de mon grand frère, alors que tu sais c'est genre de la house hyper random, tu vois.
Du coup personne devait. Tu sais c'est vraiment ça, en plus,
la house que t'achètes en vinyle, c'est vraiment quand tu l'achètes, c'est vraiment yeah, tu vois, c'est pas genre tube sur tube, truc trop bien enchaîné, tu vois. Donc je devais avoir genre un Bob Sinclair. Un jour j'ai acheté le Justice Simian. Tu vois ce que c'est, le We Are Your Friends, là, et ça, je l'adorais, mais c'était encore quand c'était le remix de Justice. Après, ça s'est appelé sous le nom de Justice. Je sais pas, tu vois, en fait, le premier gros morceau de Justice qui les a fait connaître, c'était un remix qu'ils avaient fait pour un groupe qui s'appelle Simian. Et c'est le truc qui s'appelle We Are Your Friends.
Ouais.
Et c'est un remix d'un groupe, en fait. D'accord. C'est pas un original à eux.
Ok, je croyais que c'était un original.
Et après, ils en ont fait un original, mais à la base, c'était un remix. Et qui était sorti sur Headbanger, c'est une des premières sorties d'Headbanger, je crois. Et j'avais acheté ce truc-là. Et alors pour la petite anecdote, à l'époque c'était encore MySpace. Et alors il y a beaucoup d'histoires à raconter, hein, parce que là on est qu'au début et on est.
Mais franchement, moi t'as le temps.
On a le temps.
Ouais, j'ai le temps.
Et c'est pas mal, on refait un parcours. Et à l'époque, sur MySpace, bah, on était tous sur MySpace, tu vois, dès que t'étais musicien, t'avais ta page.
Avec Tom de MySpace.
Et il avait un tableau derrière lui.
Ouais, il avait son t-shirt blanc, il regardait comme ça. C'est marrant que cette photo ait autant tourné.
Elle est super. Et sur MySpace, j'avais écrit à Justice, mais sans savoir ce que c'était, parce qu'en gros, le nom du morceau, c'était Justice vs Simian. We are your friends, un truc comme ça. Et donc, je me disais, est-ce que Justice, c'est le nom d'un groupe et tout? Et je cherche sur MySpace et je vois qu'ils existent. Il y a quelques morceaux, mais tu sais, il n'y avait pas encore eu leur album et leur premier album. Il n'y avait pas encore Dance. Il n'y avait pas encore tous ces trucs. Et je leur avais écrit. Et il y en avait un qui m'avait répondu. Et c'était genre, ouais, trop bien et tout. Tu sais, genre, j'ai acheté un vinyle. Ah, j'ai acheté votre vinyle. Nanana, trop bien. Et après, j'ai appris récemment, en fait, que c'était Xavier qui m'avait répondu. Parce que c'était, il s'en souvenait plus, mais il me disait, ah, c'est moi qui répondais aux messages sur MySpace.
Trop bien.
On avait chatté, c'était un chat en plus, c'était pas un mail, c'était un chat, ce qui est d'autant plus excitant.
Ouais, c'était les débuts de, où tu pouvais faire ça, tu t'étais dit quoi à ce moment-là? Enfin, ça, tu t'étais dit un truc à ce moment-là?
Non, parce que c'était pas un groupe connu, du coup, je m'étais rien dit, je m'étais dit cool.
Parce que t'en connaissais, sinon t'en connaissais d'autres des gens qui mixaient autour de toi finalement à ce
Ouais, parce qu'en fait justement à ce moment-là à Lille, faut savoir que c'est une ville où il y a beaucoup de salles de concert, il y a beaucoup de groupes de musique, il y a moyen de se produire, il y a moyen de d'aller jouer dans des endroits et donc assez vite je me suis dit putain, ce serait cool que je rencontre les gens qui font de la zik à Lille quoi. Et surtout qu'à ce moment-là, en fait, avant, j'habitais à Villeneuve-d'Ascq, qui est à côté de Lille. C'est une petite ville. Et j'ai déménagé à Lille aussi, ce qui a un peu changé les choses. C'est pas une petite, petite ville, mais tu vois, c'est pas très loin. Mais en fait, le fait de bouger à Lille, je me suis dit, ah, putain, ce serait bien de rencontrer les gens qui font de la zik un peu. Et on me présente un jour à un mec, qui a une émission de radio, qui chante, qui écrit des trucs, qui est super indie, tu vois. Mais tu sais, indie de indie, quoi, tu vois, genre dans le côté, genre, tu sais, un peu poète et tout, ouais. Tu vois, cool, tu vois, le gars cool. Et bref, on se rencontre, et moi je lui fais, ah, je fais de la zik et tout, je fais des instrus, nanana, tu vois, je faisais un peu des trucs dans ma chambre.
Est-ce que tu faisais des instrus déjà du coup?
Ouais, je faisais des trucs, tu vois. Ouais. Tu vois, j'avais fait un morceau où j'avais samplé le discours de la bombe d'Hiroshima avec des guitares, enfin n'importe quoi, tu vois, je l'ai gravé sur CD.
Ouais, puis, tu t'amusais quoi.
Ouais, je commençais à faire de la zik, tu vois. Et bref, je lui fais écouter mes trucs et il dit bah moi j'ai un pote qui est bassiste, on a qu'à faire un groupe. Et donc on a fait un groupe et on a commencé.
Qui s'appelait comment?
Qui s'appelait Sexual Earthquake in Kobe.
Tout simplement.
Tout simplement, ce qui était un bon nom à l'époque, un bon nom de l'époque, tu vois, c'était l'époque, si on remet ça dans le contexte, c'est l'époque Fluo Kids, synthé mélangé à des guitares électriques, dance punk et tout, tu vois. Nous, on était plus dance punk, c'était ça le style du groupe. Et il y a de la musique de ce groupe-là sur Spotify.
Trop cool.
C'est pas mal.
Je mettrai un lien.
Les gens, si, pourquoi pas? Bon, franchement, j'ai pas honte, hein. Les morceaux sont marrants et ils sont cool. Et du coup, on se rend compte, je crois, en mai, et le chanteur, il fait, ouais, moi, on va organiser un concert fin août, dans tel bar, et puis on va faire un concert, quoi. Donc, faut qu'on écrive les morceaux, et faut qu'on répète, et faut qu'on fasse le truc. Et donc, on se met dans ma chambre chez moi à Lille.
Vous aviez, c'était dans combien de temps, du coup?
C'était 2 mois, on avait 2 mois, quoi.
D'accord. Et vous aviez rien, fallait faire tout un set, c'est ça?
Ouais, fallait tout faire, ouais. Donc on avait fait quelques chansons. Et puis, alors, moi, mon setup, c'était un PC, mais c'était une tour fixe. Avec un écran, et il y avait pas des, enfin, il y avait rarement des écrans plats à l'époque, donc c'était mon gros écran.
Cathodique.
Tube cathodique. Donc il y avait mon PC, une platine pour scratcher. Sachant que je ne savais pas scratcher. Et c'était des platines à courroie, donc pour ceux qui connaissent le scratch, c'est genre impossible de scratcher. Si, c'est n'importe quoi. Un chaos pad qui est genre une boîte qui fait des effets. C'était un truc à l'époque que tout le monde avait. Un truc qui fait des n'importe quoi. Le chanteur et un bassiste. Voilà. Et c'était le groupe qui s'appelait Sexual Earthquake in Kobe. Et on fait ce premier concert et ça se passe trop bien. Parce que le chanteur, il a un putain de charisme, et puis je sais pas, le côté trio comme ça, bah je sais pas, ça excite les gens, et puis vu qu'on avait dit à tout le monde qu'on faisait un concert, tout le monde était venu, c'était blindé, enfin tu vois, on s'est trop chauffé. Et en fait, au fur et à mesure, le groupe s'est devenu un peu sérieux, quoi. Donc, on faisait de plus en plus de concerts dans le Nord. Et puis c'était devenu un peu le groupe cool. Et à côté de ça, on avait eu... Et un jour... Donc, bref, on signe sur un... Alors, attends, je fais une pause, comme ça, je me souviens bien de tout. En termes de timing, je ne l'ai pas vraiment, tu vois. Je te fais le timing musique, mais en gros, il y a un label parisien qui nous contacte, qui avait quasiment rien sorti, qui nous dit « Ah, j'aimerais trop vous faire sortir un truc. » Ah non, on recommence. Ah oui, voilà, c'est ça. On fait ce premier concert, ça marche. On fait plein d'autres concerts. Et là, on a un remix par un mec qui s'appelle The Toxic Avenger.
Ah bah oui, qui a fait un remix avec... qui avait fait un son avec Aurel San en 2011.
Ouais.
Il a fait aussi la BO du film de Run, là. Mutafukaz. Ça te dit rien?
Non.
C'est sorti cette année-là, au ciné. C'est un long métrage en anime et tout.
Ok. Bah, Toxic Avenger, ouais, il nous avait remixé.
Ah ouais?
Ouais.
Cool.
Il nous avait fait un remix. Et en fait, le remix avait buzzé de malade sur Internet. Genre, époque, blog, tu sais, tout le monde avait des blogs d'électro. Et là, on nous dit, il y a Fluo Kids qui a reposté, qui était le gros blog français. Qui a reposté votre truc, c'est génial et tout. Et en fait, là, on commence à être booké partout, tu vois. Donc, on part avec la voiture de mon daron en Allemagne, en Pologne, en Italie, et on va jouer, en fait, avec ce groupe.
Donc, finalement, très tôt, en fait, le monde de la musique, c'est un peu... T'as pu un peu en comprendre les rouages, etc., j'imagine, non? Puisque
en fait,
le truc a commencé...
Je pense pas que j'en ai compris les rouages, parce que c'était encore groupe du lycée, moi je l'appelle ça groupe du lycée, mais au moins tu voyais que c'était possible en fait. Mm. Tu vois que ouais, tu fais de la zik, tu fais de la scène et puis c'est cool et puis les gens trouvent ça bien et puis voilà, tu vois. Je te laisse.
Donc là et là Fluo Kids repose votre truc et là vous avez commencé à être booké partout, vous êtes parti en Allemagne.
Je reprends exactement
sur tes paroles.
Non, mais on part partout et puis ça se passe, tu vois, ça se passe bien. À côté, moi je suis trop content parce que j'ai le bac et je suis pris en BTS audiovisuel
à la FEMIS.
Non, BTS c'était avant la FEMIS. Donc BTS audiovisuel, c'était à Roubaix, c'est à côté de Lille. Donc ça tue, tu vois, j'ai mon groupe qui où ça marche, tu vois, enfin à notre échelle, on se dit ouais, ça marche, ça tue, tu vois. Et je suis en école de son, c'est-à-dire que je fais plus que ce que je kiffe.
T'apprenais quoi là-bas?
Tout le son, autant de rouler un câble que sonoriser une scène, percher.
Trop bien.
Tu vois, tous les trucs de son. Et donc ça tue, tu sais, le premier jour de classe, ils te disent il faudra tous que vous achetiez un casque de telle marque parce que c'est le meilleur casque. Tu fais genre trop bien, mes affaires de classe, tu sais, je dois plus acheter des intercalaires, je dois acheter un casque, ça tue, tu vois. Et donc je fais BTS et ça tue, tu vois, je fais du son. Donc moi je suis en option son. Donc je fais du son toute la journée.
Finalement direct, t'as réussi à trouver un parcours qui te plaisait, quoi.
Ouais, et puis il n'était pas encore question que la zik ce soit mon métier.
Tu pensais faire un métier vaguement dans le son, un truc
ouais,
comme ça.
Ouais, c'est ça, moi
pour un son
jusqu'au bout en fait.
Ouais.
Jusqu'au bout de mes études, je me suis fait j'avais ça en et donc on continue le groupe ça marche, on joue pas mal à Paris et tout. Et puis à côté de ça je commence à rencontrer un mec au BTS qui est avec moi. Qui est pas dans la même section que moi, mais qui est un geek dans le fond de la classe, qui lui aussi est fan d'Headbanger, de musique électronique, il a des synthés chez lui, il fait de la zik trop bien, et en fait c'est Can Blaster qui est un des membres de Club Cheval. Et donc direct un jour on est dans un bus et on va un truc qui s'appelle le Satis, c'est genre un salon d'audiovisuel, donc t'as, je sais pas, 2h30 de bus. Et moi, je vais m'asseoir à côté de lui, j'ai fait, putain, on m'a dit que tu faisais du son et tout, vas-y, fais écouter. Et lui, il avait son Discman. Et il me fait écouter le son, tu sais, je fais, mais ça tue, mec, c'est ouf, tu vois, c'est trop bien, t'es trop fort, quoi. Et lui, il faisait de la zik pour les jeux vidéo de danse. Tu vois, les DDR, là, tu sais, avec les flèches
ouais,
par terre.
Ouais. Donc, il vendait ça?
Ouais, il vendait ça, ouais.
Sérieux?
Ouais. Et en même temps, lui, il faisait de la zik un peu à la Vitalik, super vénère, mais super bien fait. Il était super bon producteur. Et Et je lui dis, bah, pourquoi tu ferais pas un remix pour mon groupe? Et il fait genre, ouais, vas-y, ok, trop bien. Et puis, comme d'hab, tu sais, genre, le truc, il le fait, et puis le remix est assez cool. Enfin, tu vois, et puis, la vie continue, tu vois, il y a un clip d'ailleurs de ce remix qui est pas mal, qui est assez drôle dans une fête foraine.
Ah, mais je l'ai vu, je crois.
Ah ouais?
Ouais, je crois que je l'ai vu. Ouais. Bah, tu sais, j'ai digué, hein. Ouais, bah, avant les interviews. Il y a peu de trucs que j'ai pas vu.
Ah, bah, voilà, bah. Et du coup, on fait ce truc-là. À côté de ça, donc on rencontre Can Blaster. Ensuite, je rencontre un. En fait, on me fait rencontrer deux autres personnes. Il y a un mec qui s'appelle Jean que je rencontre dans un train un jour en revenant de date avec mon groupe Sexual Squeaking Kobe. Et il y a un mec qui vient nous voir qui dit ah putain, je vous ai vu en concert hier, c'était mortel et tout. Ah ouais, bah ce serait peut-être bien que vous rencontriez. J'ai deux potes qui font de l'Asie, qui sont à Sciences Po avec moi. Vous devriez les rencontrer. Et en fait, je rencontre Pantero 666 et Sam Tiba. Mmh. Et moi, je connaissais déjà Can Blaster.
Qui sont donc les deux autres ouais, et en fait, membres de Club Cheval.
Et en fait, parallèlement à ça, nous, le groupe, du fait que... Attends, ça, c'est pour la suite de l'histoire. Je te spoil pas. Et en fait, on... Dans ce train, on se rencontre et il nous fait « Ah, ce serait bien que vous vous rencontriez. » Donc, on se rencontre avec les autres et en fait, on voit que direct, il y a une espèce d'envie. C'est-à-dire que Pantero 66, il fait de la zik mortelle où en fait, lui, il est avec sa batterie électronique mélangée à une vraie batterie, un sampler et une mini boîte à rythme. Et il fait de la zik trop chelou, mais trop bien, super groovy, trop super cool, tu vois. Il a passé 2 ans en Angleterre, donc il a une espèce de fibre où il a vu un peu, tu sais, quand tu vas en Angleterre, tu te prends toujours une espèce de claque musicale où tu vois des mecs qui sont un peu dans le futur, quoi. Tu sais, ils sont trop forts, quoi. Donc, lui, il avait fait un groupe qui s'appelait Trou, qui était trop bien, où il était tout seul à la batterie. Enfin, c'était vraiment top. Et Sam Tiba, lui, il faisait des mixtapes de baile funk, où il mélangeait de la pop et du baile funk. Un peu à la Diplo, tu vois, genre il mélangeait Calvin Harris avec des classiques baile funk, donc ça a tué, quoi. Et donc, tu sais, on se rencontre tous et on fait genre « Ah ouais, putain, ça tue les gars », tu vois, genre on a tous envie de faire des trucs genre super créatifs. Et donc moi, je termine le BTS et je me dis...
Là, t'as quoi, 20 piges ?
Je termine le BTS... Ouais, j'ai 20 ans pile. Et j'ai 20 ans et je me dis ouais, franchement, ce qui est relou avec le BTS, c'était très bien s'ils m'entendent, mais c'était pas assez en termes d'éducation, tu vois. Je connaissais pas assez de trucs, tu vois. J'avais envie d'être beaucoup plus fort en son.
Ah, t'avais presque pas assez bossé, tu trouves?
Ouais, mais je voulais être plus fort en son, tu vois. Je voulais être plus genre plus chaud, tu vois. Je voulais être encore plus technique, connaître plus de trucs, tu vois. Là c'était un bon niveau pour être un bon stagiaire et après apprendre en bossant. Moi, je voulais avoir un truc un peu plus
C'était quoi un exemple de truc que t'avais l'impression que tu maîtrisais moins ou pas assez?
Le mix par exemple, ou alors tu vois, j'avais appris à percher, mais tu vois, je perchais comme un c'est horrible, mais tu
percher,
vois,
c'est-à-dire placer un micro,
ouais, comme une prise de son, micro, quoi. Le choix des micros et créative, un BTS c'est brevet de technicien supérieur, donc t'es vraiment technique, tu vois, t'es très peu artistique, et il manquait un truc un peu next level, tu vois. Et donc je me dis vas-y, je tente les grosses écoles de fou là, en sachant que donc t'en as deux en France. T'as soit Louis Lumière qui est axé plus technique. Donc c'est pour tous les mecs qui vont bosser à Radio France, trop chaud en électronique. Tu sais, à la fois les mecs ils peuvent te faire l'acoustique d'une pièce, mais en même temps ils connaissent tous les micros, ils sont trop chauds, quoi. C'est trop bien. Et ou alors la FEMIS qui est axé cinéma et plus artistique en fait. Et je teste Louis Lumière. Je me fais remballe direct parce que je suis pas assez fort en maths, tu vois. Pourtant, j'avais fait un bac S, mais j'ai eu 6 au bac en maths. Donc, je me suis fait remballe. Et je tente la FEMIS. Et donc, le concours, c'est un truc genre... Enfin, je vais pas te le faire parce que l'histoire est longue, mais en gros, c'est dossier d'enquête. Tu dois faire des recherches sur toi-même, te livrer vachement sur tes goûts, sur tes trucs. Et en fait, je sais pas... par quel miracle, hasard, cool, je sais pas, il y a un truc qui fait que... En fait, il y a, je sais pas combien il y a de personnes qui se présentent, mais au final, il y a que 6 personnes qui sont prises.
Waouh.
Et par promo, tu vois. Et en fait, ils veulent vraiment que les promos, elles soient genre super soudées. Donc en fait, ils aiment bien créer un espèce d'ADN de promo. Et bref, au fur et à mesure du concours, il y a genre 3 étapes et tout, bah je suis pris. Donc là, ça tue, tu vois, encore plus.
Et tu le passais en non, mode, je vais l'avoir, machine et tout, ou genre, j'espère.
Je m'en battais pas les couilles parce que c'était important. Mais tu sais, c'est souvent ces trucs-là, c'est genre, tu commences, c'est genre un jeu, tu sais, tu fais genre, ouais, je vais voir, ouais. Et en fait, tu commences à marcher et tu fais genre, ah ouais, là, c'est un enjeu, tu vois, là, c'est genre, putain, si je l'ai pas, alors que j'ai passé les 2 premières étapes, je suis vraiment une merde. Et faut que je l'ai, tu vois. Donc là, à la fin, tu te concentres j'étais super stressé et puis je l'ai eu. Et c'était trop le rêve, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que je venais à Paris, j'avais mon groupe toujours, j'avais rencontré les clubs cheval avec qui on allait faire un truc d'une manière ou d'une autre. Et puis ça tuait, tu vois, c'était...
C'est marrant parce que quand tu racontes ça, on a l'impression que tout est arrivé super naturellement. C'est chaque étape après la précédente.
Bah tu vois mon histoire, il y a pas un moment où tu fais genre ah putain et puis là,
là ah oui et là j'ai décidé
là il y a eu une explosion. Bah si. Ouais, tout est arrivé naturellement. Ouais, mais c'est naturel, mais c'est parce que c'est plus que t'orientes un peu comme un je trouve que avec le recul maintenant, c'est plus comme si t'orientais un paquebot, tu vois, c'est-à-dire que tu vois, tu fais genre 10 000 coups de truc, mais ça bouge un tout petit peu et puis petit à petit et puis t'orientes ton truc, tu vois. Plutôt que faire des espèces de choix extrêmes, super rapides, et puis en fait, après, de faire genre, ah ouais, en fait, c'est trop compliqué, là.
Bah, d'autant qu'en plus, l'avantage quand tu commences à orienter le paquebot tôt, disons, c'est que justement, t'as pas besoin de faire ces énormes coups de virage.
Ouais, voilà, c'est ça.
T'as le temps de le. Parce que quand je disais naturellement, c'est que quand tu commences à faire des trucs, je pense, que t'aimes quand t'es ado, t'as la chance de voir ça, comme tu disais. Au début, c'est un jeu. Et du coup, t'es pas en train de te dire, faut que je sois trop fort, tu sais, forcément. Ou genre, faut que je sois trop fort hyper vite pour pouvoir gagner ma vie.
Après, faut faire attention à ça parce que ton paquebot, il peut assez vite dériver et être un peu en roue libre et tu peux être un peu dans un truc de complaisance en te disant, ouais, bah, ça avance, bah, ça va, tu vois. Et des fois, tu peux un peu te dire, mais ça, c'est pour la suite de l'histoire aussi, mais.
Allez.
Mais en tout cas, là, ils étaient trop bien, tu sais, t'as 20 ans, je viens à Paris, on est en coloc avec mon frère. Je fais un studio dans ma chambre avec un mini matelas, enfin c'est même pas un lit, c'est plus un bout de mousse qui est mon matelas, et le reste c'est genre tout mon matos, tu vois, pour pouvoir répéter avec mon groupe et puis faire de la zik. Et puis voilà, ça tue, quoi, tu sais, c'est super bien. La fémis c'est vachement cool. J'apprends plein de trucs, je rencontre des gens, j'apprends à bosser en équipe, tu vois, j'apprends des trucs techniques et je me dis pendant ces 4 ans là, ça dure 4 ans la fémis. Et je me dis, ouais, bah, ça, c'est bien, tu vois, je vais devenir mixeur, tu vois. Mixeur de ciné, tu vois, c'est la dernière étape quand tu es dans une salle de ciné sans siège, avec juste une énorme table de mixage tu mélanges tous les sons, quoi.
Tu te voyais là un peu.
Ouais, moi, je me voyais bien faire ça, tu vois. Et d'autant plus que la Fémis, eux, ils ont jamais voulu que je fasse de zik. En fait, ils considèrent que comme t'es rentré dans l'école, c'est une chance pour toi, parce que c'est une école publique. Et du coup, tu peux pas rater des cours, tu peux pas. Donc moi, quand je leur ai déjà dit, genre, est-ce que je peux partir en tournée? Il faut juste que je parte une semaine. Non, non, non. C'était non catégorique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et t'en penses quoi avec le recul de ça?
Franchement, c'est bien, tu sais. Et donc le jour où ils m'ont dit ça, moi j'ai appelé mon père comme un enfant gâté en disant, ouais, je crois que je vais arrêter l'école, ils veulent pas que je parte en tournée, mais c'est une tournée super importante, c'est une tournée dans toute l'Europe et tout. Et mon père, il m'a dit, bah, franchement, si tu fais ça, de toute façon, je te coupe les vives et je te déshérite.
Ok.
Même s'il y avait pas d'héritage en jeu, je pense, mais tu vois, c'était plus un message genre, t'es trop con, tu vois, genre.
Finis, fais tes études.
Surtout que lui qui m'a soutenu tout le temps, tu vois, là, qui me dit ça, je me suis fait, ouais, en fait, en effet, tu vois.
Dans le sens, finis tes études, tu pourras toujours faire de la musique
ensuite.
Ouais,
ou... voilà, et puis voilà. Hein. Et il a eu raison, parce qu'en fait, et donc dans ce.
Attends, juste petite question. Tu dis qu'à ce moment-là, tu te voyais plus mixeur de ciné.
Mm-hmm.
Est-ce que c'était parce que tu te disais que c'était juste pas possible de bosser dans la musique, ou que c'était pas trop ton délire, ou parce que.
Non, parce que je voyais bien que la manière dont je faisais de la zik à l'époque, c'est-à-dire en formation de groupe, indie. Où on jouait plus pour des bières et pour des bières, quoi. Tu vois? Et un repas chaud. Bah, tu vois, ça, c'était pas, je sais pas, il y avait rien qui ressemblait à une carrière, tu vois. Ouais. C'était plus, et puis voilà. Tu vois, il y avait pas, enfin, non, du coup, ça ressemblait pas à ça, tu vois, donc je me disais pas, je me disais, c'est pas possible, tu vois, c'est pas un projet de vie, tu vois, c'était pas un vrai projet de vie, quoi.
Ouais.
Même si je pense que, mais après, c'est peut-être ma manière de fonctionner, tu vois, c'est de laisser avancer les choses, d'avoir un espèce de truc en tête et de voir un peu comment tu peux tout mettre en place petit à petit pour que ça arrive ou pas. Mais tu vois, là, il y avait un truc, c'est-à-dire que je pensais être mixeur, mais à côté de ça, je faisais tous les week-ends, j'allais à Lille le répéter, je faisais des concerts, je faisais des trucs et je faisais avancer mon projet. Donc, tu vois, c'est bien qu'il y avait un truc quand même derrière.
Juste, tu te mettais pas la pression avec ou...
Ouais. Et puis en fait le fait que donc après il y a eu Paris et le groupe avec mon groupe bah en fait petit à petit il y a ceux qui ont décidé de rester à Lille qui voulaient pas venir à Paris alors qu'on voyait bien qu'à un moment venir à Paris c'était obligatoire tu vois et c'est...
Pourquoi c'était obligatoire?
Tu peux pas pour moi tu peux pas être resté en province et réussir enfin et percer dans la zic quoi. Je fais extrême, il y aura sûrement plein de contre-exemples.
Même à l'heure d'internet où tu peux faire tes prods et tout.
Non, parce que, enfin, si, peut-être, tu vois, tu peux peut-être faire un truc et être l'exception qui est que t'es dans le fin fond de la campagne à Nantes et que, en fait, t'as envoyé une prod à Damso et puis il l'a prise. Ouais, et alors, tu vois. Cool pour toi, tu sais, genre, tu vas gagner de l'argent, mais est-ce que tu vas rencontrer des gens? Est-ce qu'on va penser à toi? Est-ce qu'on va penser à toi pour faire la première partie de truc en tant que DJ pour faire des trucs? Sinon, tout va être un peu compliqué, tu vois.
Donc, il faut être dans la scène.
Ouais,
quoi.
Faut être là, tu vois. Et puis, en plus, les gens pensent à toi, tu rencontres des gens, c'est plus facile, tu te retrouves par hasard et tu crées un peu plus l'accident de ce qui peut t'arriver, quoi. Tu vois, si tu sors de chez toi, tu rencontreras plus de gens que tu restes chez toi.
Complètement.
Bien qu'il y a des gens qui peuvent venir sonner, c'est possible, mais c'est quand même moins probable.
Non, mais complètement. On en parlait déjà dans pas mal d'épisodes. Moi, ça m'arrive en plus assez souvent de croiser des gens dans Paris que je connais pas, mais que j'ai trop envie de rencontrer et d'aller les voir et de faire hey,
mais ouais.
Salut, je suis un podcast et tout. J'avais trop envie de te rencontrer. Et du coup, bah, tu sais, si t'habites moi, j'ai grandi à côté de Chambéry. Là-bas, j'aurais pas rencontré ces mecs dans la rue, tu vois, ça serait jamais arrivé.
Ouais,
tous ces petits accidents, en fait.
Ton podcast, évidemment que tu pourrais le faire si t'étais à Chambéry.
Ouais.
Mais tu vois, je serais pas venu.
Ouais, non, t'aurais pas pris le TGV, quoi.
Bah non.
Et puis c'est moins bien sûr.
Ou alors un jour, je serais passé pas loin et je serais venu le faire, mais dans ce cas-là, ça aurait été dans 3 mois et nanana, etc., etc. Tu vois, t'es dans un autre, une autre. Enfin, c'est plus compliqué.
Ouais.
Et du coup, nous, on
a. C'est mieux d'aller là où il y a le centre de la scène, quoi.
Ouais, c'est ça. Et nous, Club Cheval. À côté de ça, donc en fait, on avait ce groupe, le groupe qui commençait un peu, on était un peu sur la fin, tu vois, on avait fait les tremplins de Lille, on avait eu des bourses à Lille, on était le groupe un peu cool à Lille, mais tu vois, il manquait, on devait signer en maison de disque aussi à Paris, et je sais pas, ça s'était pas fait quoi, tu vois, on a eu des rendez-vous, c'était EMI à l'époque, et je sais pas, tu vois, donc en fait tout ça un peu, on était un peu, tu vois, c'était un peu sur la fin quoi. Et puis tu sais, c'est, tu vois, genre t'es un peu sur la fin et puis tu rencontres les nouveaux gars, tu vois, qui sont chauds, qui sont excités. Et avec eux, on se dit vas-y, bah on va créer un. En fait, on commence par faire quelques morceaux ensemble à quatre.
C'était qui quand tu dis les nouveaux gars?
C'est les mecs qui vont faire Club Cheval plus tard, en fait. D'accord. C'est-à-dire Panthéros.
Non, parce qu'en fait, t'as dit sur Club Cheval, on était sur la fin, mais sur ton groupe précédent, en fait, que t'étais sur la fin.
Pardon. Ouais, c'est ça, excuse-moi. C'est l'autre groupe, on était sur la fin. Et à côté de ça, moi, on avait rencontré les nouveaux, où nous, on était surexcités. Et on avait déjà un truc de se dire, on avait déjà aussi avec le groupe, parce que j'ai oublié de dire un truc, c'est que Panthéros 666, qui est dans Club Cheval, il était devenu batteur de mon groupe de Sake, en fait, de Sexual Earthquake in Kobe. Je l'avais pris en batteur sur le groupe et on avait déjà aussi un peu ce truc où on voyait que nous on jouait en live et après nous il y avait un DJ et le DJ il niquait tout, tu vois, en arrivant avec ses CD et donc on faisait putain, c'est abusé quoi, tu vois, genre, et on avait un peu cette envie de commencer à devenir DJ aussi, tu vois. Et avec Can Blaster, on mixait déjà un peu ensemble dans certaines soirées. Tu vois, on avait déjà cette envie de DJ il y avait un truc autour du DJing. Et on s'est dit, vas-y, on va, vu qu'on commence à faire de la zik ensemble, on mixe ensemble, on va créer un truc. Donc, c'était pas un groupe de musique à l'époque, c'était plus un collectif. Et on va appeler ça Cheval. Parce qu'on trouvait ça marrant. tu vois. On trouvait ça ouais. cool comme mot, on aimait bien, tu vois, ça faisait un bon truc. Et on se met à prendre le truc à super au sérieux.
Donc, direct, dès le début.
Ouais, super au sérieux. On organise une soirée. La soirée, on colle des affiches partout dans Lille. On invite un DJ, on réussit à le convaincre sur internet d'être payé rien du tout. C'est un mec qui s'appelle Dooster, King Doudou, si ça te parle. C'est un mec qui a produit entre autres pour PNL et tout maintenant.
D'accord.
Et le mec à l'époque, tu sais, il faisait pareil, de la zik un peu tropicale, fun. Et bref, on commence à faire des trucs et puis en fait, ça le fait quoi, tu vois. Les gens sont excités. Ensuite, on commence à produire des morceaux. Moi, je fais un premier morceau.
Comment vous bossez à quatre sur
On bossait souvent chez Can Blaster, qui avait ouais. le plus grand appartement. C'était le bordel chez lui de malade, mais c'était trop bien, tu sais, on allait le réveiller.
Parce qu'il dormait super tard, c'est ça?
Il dormait super tard, on allait toujours le réveiller. Le premier truc, on ouvrait la fenêtre. Lui, il dormait sur son clic-clac et on disait, ouais, et puis lui, il était en slip comme ça. Et puis on allumait son ordi. Ensuite, on allumait le ventilateur extérieur qui était contre son ordi tellement son ordi est chauffé. Et puis on faisait de la zik, tu vois. Et puis c'était trop bien, quoi, parce que on a fait un remix. Enfin, en gros, il s'est passé plein de bons trucs pour Club Cheval assez vite. C'est-à-dire qu'on a fait un remix pour un groupe qui s'appelle Neymo, si ça te parle.
Non.
Bon, c'était un groupe de Paris. Et puis, on gagne un concours de remix, par exemple. Donc, c'est genre, ouah, trop bien, on a gagné le concours de remix. Après, on fait la soirée à Lille, elle est blindée. Ah, trop bien, tu sais. Après, on colle les affiches dans Lille et puis ça se passe bien. Et puis, après, moi, je sors un morceau qui s'appelle Train to Bamako.
Ouais, que j'ai écouté.
Ouais, bah, c'était mon premier morceau un peu de cette époque-là. Et mon premier vrai morceau qui a marché, entre guillemets. Et là, les gens se mettent à jouer Train to Bamako. Et c'est là où il y a
quels gens
les gens de Paris, les vrais DJ. Donc il y a genre Tequila Tex qui joue Train to Bamako.
Tequila Tex de TTC donc
à l'époque. De TTC. Et après je fais un autre morceau qui s'appelle Roal et il y a Brodinski qui le joue. Et c'est pas mal grâce à Jean qui est le mec qui nous a fait tous le mec que j'ai rencontré dans le train qui ouais. nous a fait tous nous rencontrer parce que lui vu que c'est le gars qui faisait pas de zik, il a décidé de devenir notre manager. Et lui, il donne nos clés USB à des DJ à Paris. Il nous fait rencontrer des gens. Tu sais, il dit attends, toi, il faut que tu fasses des séances photos. Du coup, il me présente à une pote à lui. On fait une vraie séance photo. Tu sais, d'un coup, en fait, ça devient sérieux, tu vois.
C'était quoi l'importance de, en fin de compte, d'être avec parce que dans l'histoire, en fait, t'es tout le temps avec des potes.
Ouais.
Tu fais jamais de la musique tout seul. Non. Finalement, t'es pas parce que maintenant, tu sais, il y a souvent la légende du producteur chez lui qui mange des pizzas et qui fait des beats tout seul. Et toi, on remarque que t'es tout le temps avec des gens et tu penses que c'était important en fait pour le développement enfin ton avancée à toi
pour Club Cheval c'était enfin pour mon avancée à moi ouais parce que c'est ce qui m'a permis de quand t'as quelqu'un avec toi en studio déjà ça te permet d'avoir du répondant tu vois c'est-à-dire que t'es pas tout seul avec tes doutes tes questions et à te poser des milliards de questions, à stresser ou à t'enjailler pour un truc pourri, tu vois. T'as toujours un gars à côté de toi qui va faire, ah non, ça c'est nul, ah ça j'aime moins, nanana. Du coup, tu le convaincs, il fait genre, ah ouais, bonne idée, si, c'est bien. Et t'es dans un truc de ping-pong. Et t'as moins peur quand t'es à plusieurs, tu vois. Parce que après, quand on est arrivé à Paris, tu vois, genre, la première fois qu'on a rencontré, genre, Tequila Tex, tu vois. Parce que c'est lui qui nous a aidé de malade à Paris, tu vois. C'est genre vraiment la personne qui nous a. On est allé à Do au rendez-vous avec Panteros. Et ben ça change tout en fait, tu sais, parce qu'en fait on arrive avec nos blagues, nos trucs, et puis on peut tout de suite.
T'es pas tout seul avec
ton équipe en fait, tu vois. Tu vois, tout comme t'arrives en studio, les rappeurs ils viennent en studio avec leur crew. Tu vois, c'est pas parce que c'est leurs meilleurs amis, tu vois. C'est parce qu'à un moment, tu sais, si jamais il y a un malaise, si jamais il y a un truc, au moins t'as quelqu'un avec qui. Avec qui avancer quoi. Être tout seul c'est quand même dur quoi. Tu sais, t'arrives tout seul dans un endroit t'es un peu genre dans un endroit ou dans une situation ou dans la vie tu vois c'est toujours moins facile. Même si des fois t'en as besoin mais moi pour le coup j'ai peut-être un problème avec ça c'est que j'aime bien être toujours avec quelqu'un tu vois.
Ah ouais.
Ouais.
Quand tu bosses quand tu.
Ouais. Ouais ouais. Et donc bref, je te la fais rapide sur ce moment-là. Enfin, on continue chronologiquement. Tu préfères faire comme ça?
Ouais, c'est bien. Ouais. Mais attends, une autre question. Si tu parce qu'en fait, c'est quelque chose qui revient assez souvent que quoi que fassent les gens, tu vois le côté, tu vas rencontrer un peu la scène de gens qui font ce que tu fais et tu te groupes avec des personnes parce que c'est plus facile ensuite pour progresser. Puis ça garde le côté fun. Puis ça te protège un peu de trouver des gens, tu vois.
Ouais.
Si tu recommençais, mettons que là. Tu te lances dans la musique ou tu fais du son chez toi et tu te dis bon allez j'ai envie d'en faire vraiment. Comment tu ferais pour essayer de re-t'entourer tu vois si tu connaissais personne?
En fait, faut voir. Non, ça, c'est en fait, c'est voir le problème dans le mauvais sens de dire ça. En fait, faut d'abord faire de la zik. Et naturellement, ta musique, elle va parler à des gens, et ces gens-là vont venir vers toi, ou tu vas leur envoyer. Mais souvent, il y a quelque chose d'assez naturel qui se fait. Si, tu vois, moi, il y a trop des gars qui te demandent toujours genre ouais, qu'est-ce que je dois faire, qui je dois rencontrer pour me lancer dans la zik. Bah tu fais bah non, mais c'est pas ça. Pour te lancer dans la zik, tu dois faire de la zik. Tu vois, et c'est vraiment ça. Il y a peu de gens dans la musique que j'ai rencontré en envoyant un mail en disant peut-on se rencontrer. Tu vois, souvent c'est soit un DJ qui a joué mon truc, du coup je lui dis ouais putain t'as joué mon truc, t'aimes bien, ah ouais t'aimes bien, donc du coup avançons là-dessus. Ou alors ou un producteur ou un rappeur, enfin tu vois, c'est rare que ce soit parce qu'en fait sinon c'est un peu artificiel, quoi. Tu vois, c'est il y a rien de plus, justement, de plus naturel que de parler en fonction de la zik, tu vois. C'est ouais. comme de Tinder, tu vois, genre tu vas pas tu vas rencontrer une meuf juste parce que tu la trouves belle. Bah ouais, tu vas arriver face à elle, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire des banalités, et puis en fait ça va être awkward, et puis voilà. Si tu y vas parce que tu l'as entendu faire une blague dans une soirée, tu lui fais putain, j'ai entendu que t'avais bien aimé ce film et que nanana et que ça c'était pourri. Ah ouais, et puis t'es parti, et puis là il y a un vrai truc qui se passe, quoi.
Mmh. Ouais, donc en fait la stratégie la meilleure, c'est tu fais ton truc et naturellement ça va créer des
ouais.
Parce que ouais, c'est ça, il y a beaucoup de, même à l'époque où, enfin, même je reçois pas mal de messages sur Nouvelle École par exemple, de gens qui lancent des trucs et tu sais qui cherchent souvent à rencontrer des gens, et moi j'ai toujours tendance à dire que si tu, enfin, faut créer l'impulsion de départ de ton projet, en fait.
Complètement. Et ça veut pas, en fait, si t'as besoin de t'entourer, en fait faut le voir comme une toile d'araignée, c'est-à-dire que commence par t'entourer un peu, tu regardes autour de toi et tu fais bah qui j'ai autour de moi, et t'es jamais tout seul, tu vois, t'as peut-être ah ouais bah t'as zik, vas-y fais-le écouter à ta daronne, tu vois. Je sais pas, moi j'ai commencé comme ça, je sais pas, genre mes CD, mes premiers morceaux, je les ai écoutés à mon père, et il me disait oh, j'ai lu dans Keyboard Recording que la compression c'était très important. Et je fais genre c'est quoi la compression? Il me fait ah bah la compression, je sais pas, j'ai pas bien compris, mais tu liras le truc. Et après je fais genre ah putain la compression, et je lis le truc sur la compression, et je fais genre ah putain pas con, en fait c'est trop important, tu sais. Et puis t'avances comme ça dans... Et puis après ma mère, je lui disais genre ah putain t'entends le son dans ce truc là et nanana, et puis tu sais, elle me le raconte encore, elle me dit ah tu me faisais écouter les trucs à l'époque. Et en fait bah ouais, au début c'est peut-être tes darons, c'est peut-être ton frère, et puis en fait ton frère, et puis un jour il va rencontrer quelqu'un, et puis il va te le faire rencontrer. C'est comme mon père, il m'a fait rencontrer DJ Adolphe, ouais. Tu vois, en fait c'est ta toile d'araignée, faut pas aller trop loin, parce qu'en fait sinon ben, malheureusement les démos que je reçois, tu vois, des gens en me disant genre yo mid et nanana, et je pense que ça va te plaire, il faudrait que t'écoutes mon son, bah franchement la plupart du temps c'est pas bien, parce que
ils sont pas attendus assez, tu penses?
Je sais pas pourquoi c'est exactement comme ça, et je sais que pour la plupart des gens c'est comme ça, tu vois. Après ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir une exception d'un mec qui envoie une boulette, mais en fait souvent si le mec il fait de la musique vraiment mortelle autour de lui, il y a déjà des gens qui écoutent, et donc il se passe déjà un truc, et puis
ouais, donc c'est pas forcément lui qui t'envoie sa démo, c'est plus quelqu'un qui peut-être va être autour de toi et qui va te dire ah j'ai écouté ce truc de
exactement,
ce mec là
exactement. Et moi je le vois comme ça, tu vois, il faut prendre ton réseau à toi et faire confiance, tu vois. Tout comme ouais, c'est comme les amis, quoi, tu vois. Si tu dis je veux absolument être ami avec quelqu'un de populaire, tu sais, tu vas aller le voir, tu vas lui sucer la bite toute une soirée, et puis en fait il va dire ce mec il est trop relou, et puis on a rien à se dire. Tu vois, bah c'est la zik, c'est pareil, c'est un truc humain, et puis voilà, faut pas forcer, quoi.
Alors trop bien, reprenons.
On reprend la chronologie là.
J'espère
que les gens aiment l'histoire, parce que écoute, c'est vraiment l'histoire de ma vie, quoi.
J'ai le seul critère que j'ai de est-ce que c'est une bonne interview, c'est est-ce que ça m'intéresse.
Et là, c'est
donc ça m'intéresse.
Yes.
Je suis à fond.
Fantastique.
Alors l'histoire est trop bien, je trouve. Il se passe que des trucs cool tout le temps.
Il se passe des bons trucs. Ouais.
Donc Tequila Tex, là, on en est à.
Et donc en fait, Tequila Tex commence à jouer nos morceaux. Brodinski commence à jouer nos morceaux. Enfin, je dis mes morceaux, mais aussi il y avait des morceaux de Sam. Tequila Tex, Panteros 666 fait un morceau de Gabber et techno, et Tequila Tex dit vas-y, on le sort sur mon label, le San Pellegrino. T'sais, donc on fait putain, et ça tue, tu vois, genre c'est trop bien. Can Blaster, génie de la zik, met tout le monde d'accord avec sa musique de club folle, met tout le monde d'accord mondialement, où tout le monde fait genre putain c'est qui ce gars qui fait de la zik, tu vois, ses premiers trucs c'était un peu une sorte de house, un peu une sorte de disclosure complètement fou pour mais ça vaut le coup d'aller écouter, et il met tout le monde d'accord, c'est-à-dire que il a ni page Facebook ni manager ni booker, et en fait le mec il fait déjà des dates partout dans le monde.
Je mettrai des liens d'ailleurs dans la description de l'épisode pour que les gens puissent.
Ouais, il y a de quoi. Faudrait okay. faire une, non, on va faire une playlist Spotify.
Nouvelle
ça
école.
Pas mal.
Mid.
Avec une chronologie. En fait, si tu l'écoutes en même temps qu'écouter l'interview,
ouais.
t'as le truc, ça serait pas mal.
Je peux faire ça, absolument. Ouais.
Ça, c'est pas mal.
Okay.
Et donc, bref, tu vois, genre, il y a un truc qui se passe. Un vrai truc qui se passe, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, assez vite, on arrive à Paris. Et puis en fait on rencontre Tequila Tex qui lui qu'est-ce qu'il nous invite un peu sur des DJ sets, j'essaie de me souvenir, tu vois, parallèlement à ça on va revoir un personnage qui est important dans mon histoire, et c'est Manu Baron, c'est un mec de Lille.
Tu veux de l'eau?
Ouais,
t'es chaud?
Ouais,
je t'en mets de l'eau. Je me suis dit tu l'as fini super vite alors.
C'est le fait de parler. Attends, je vais noter juste que c'était à 52 minutes comme ça.
Ah, ça fait déjà 52 minutes là ?
Ouais.
Ah ouais, putain.
Pourquoi t'as rendez-vous ?
Non, c'est plus pour.
Non. C'est ah non, mais moi j'écoute des podcasts qui durent 3 heures parfois. Bon alors, Manu.
Et donc il y a un. Ouais, donc en fait, on est à ce moment où en fait, en parallèle, on rencontre ce personnage que j'avais déjà croisé à l'époque avec mon ancien groupe, mais qui était un peu une figure lilloise et dans la musique parisienne après, qui est Manu Baron. Manu Baron, il a fait plein de choses dans sa vie. Il a été programmateur du Printemps de Bourges. Il a fait plein de trucs dans la zik, et il était je me souviens plus de tout ce qu'il a fait, mais à l'époque où on le rencontre, il est manager de Birdie Nam Nam, entre autres. Il a le Social Club. Et il a une boîte de management, booking, qui s'appelle Savoir-Faire. Et en fait, on décide de bosser ensemble pour que ça devienne notre manager. Donc, ce qui change pas mal les choses, parce que donc il a le Social Club, donc en fait c'était trop bien, parce que à la fois on avait des stratégies de management avec lui, mais c'est-à-dire que tu dis genre on veut organiser une soirée Club Cheval, bah il fait ah bah très bien, j'ai mon truc de booking, donc je peux booker des artistes, et puis en même temps on peut le faire au Social Club. Et le Social Club à l'époque c'était le rendez-vous incontournable des nuits parisiennes. J'aime pas le dire comme ça, mais c'est ce que c'était. C'est-à-dire que c'est un truc qui a plus trop maintenant, sans être c'était mieux avant.
Attends, du coup, petite question, ouais. Aparté, parce que
vas-y.
M'en fait. Toi, comme tu étais fan d'électro depuis le départ,
ouais.
Du coup, j'imagine que quand tu allais à des concerts, c'était allé dans des clubs ou dans des trucs qui jouaient ouais. électro, quoi. Donc en fait, depuis le départ, tu allais que là-dedans, ça
Ouais, ouais.
Ok.
Ouais. Après, j'étais pas mal fan de TTC aussi, mais côté électronique.
Ouais.
Donc j'étais assez impressionné quand j'ai rencontré Tequila Tex la première fois.
Ouais, tu m'étonnes.
parce que je l'adorais. Bon, en fait, le chanteur de mon premier groupe m'avait volé le CD de TTC à la Fnac pour mon anniversaire.
Bâtard sensible.
Ouais. Il me l'avait volé et il s'était fait choper. Ouais, c'est marrant ça, non ? Du coup, il avait dû le payer, il me l'avait offert. Très sympa. Et ce disque, il est incroyable. Et en fait, et donc Manu. On se retrouve à jouer au Social Club et à passer beaucoup de temps là-bas. Et en fait, le Social Club, ce qui était génial, c'est que c'était la maison, en fait. C'est-à-dire que quand t'allais au Social Club et que t'étais artiste ou affilié à cette team-là, bah, en fait, tu buvais gratos, tu rentrais gratos. C'était génial, quoi. Et tu rencontrais des artistes. C'est-à-dire que Tequila Tex, il y allait tout le temps, mais tu voyais d'autres artistes, et nanana. Et du coup, tu parlais. Enfin, tu vois, c'était un vrai lieu social. Il y avait un vrai truc de la nuit et de la fête qui était fou, quoi. Et donc Manu il nous aide de malade à l'époque. Donc à l'époque Club Cheval c'est encore 4 bébés, on fait des EP par-ci par-là. Moi je sors des EP parce que Tequila Tex il me présente du coup à à Surkin et Parawan, qui en fait viennent de créer un label qui s'appelle Marble, à cette époque, je veux dire.
Ouais.
Marble, c'était Parawan, Surkin et Bob Mo. Je sais pas si ça.
Ah ouais, que j'ai...
Et donc, pareil, tu vois, moi, Parawan, j'étais quand même un gros fan, Surkin aussi. Enfin, tu vois, c'est des grosses figures de l'électro française.
Est-ce que tu avais un sentiment à ce moment-là que tout se débloquait d'un coup ou que tout s'accélérait?
Ouais. Bah ouais, t'es genre, t'es trop content, quoi, tu vois, c'est. Parce que, en plus, tu vois, c'est ce que. T'es d'autant plus content quand tout se fait naturellement et pour ta zik, quoi. Parce que les gens, ils nous aimaient, nous quatre, parce qu'on était chelou, qu'on venait de Lille et qu'on faisait de la zik créative, tu vois. C'était pas pour autre chose. Parce qu'en fait, on avait que ça, de toute façon. Donc, tu vois, il y avait d'un côté la coloc de Sam Tiba et de Panteros. Qui était trop mal foutu, il faisait de la zik dedans, Panteros il faisait de la zik toute la nuit, Sam aussi, et en fait, mais à côté de ça, en même temps, Sam il se retrouve à faire la première partie de Diplo au Social Club, enfin tu vois, c'est des espèces de, tu sais, c'est vraiment le artisanal, quoi, tu vois. Moi je suis dans ma chambre avec toujours mon PC fixe, qui est toujours le même que le live de mon premier groupe, tu vois. Can Blaster, il habite dans une coloc, mais alors sa chambre c'est une cellule de prison, quoi, minuscule, matelas par terre, et rien à part un ordi et un clavier, une sorte de Yamaha avec des cartouches japonaises dedans pour faire des sons chelous. Enfin, mais ça tuait, tu vois, c'est ce qui faisait que. Et là, là, il y a tout ce moment où on rencontre tout le monde, on se met à tourner.
Je t'interromps. Ouais. Il y a encore un truc que je trouve intéressant, là, c'est qu'on se rend compte que tout le monde fait de la musique, mais en fait, personne n'a besoin d'un quelconque équipement spécial. Tout le monde est là avec juste son ordi, un clavier, et ça marche, quoi.
Oh, bah ouais.
Ah, parce qu'en fait, quand tu penses à tous ces trucs, mais donc, dans plein de disciplines, hein, que ce soit la musique ou plein d'autres trucs, t'as toujours l'impression que les pros ont genre full matos.
Ah ouais, mais ça, c'est un fantasme c'est une erreur. C'est une erreur. T'as pas. Ça veut pas dire que t'as pas besoin de trucs. T'en as besoin quand t'en as besoin, tu vois, mais t'en as pas. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis.
Ouais.
T'en as. Tu sais, genre, si j'ai besoin d'un son spécifique de tel piano et de tel micro, pour tel chanteur, ouais, pourquoi pas, tu vois. Mais tu peux faire sans. Tu vois. Tu vas pas me dire. Tu vois, mais on en parlera plus tard, mais quand avec Core, on a déjà fait des morceaux ensemble à l'iPhone. Tu vois, tout va bien, hein. La vie est belle et l'iPhone fonctionne,
ouais.
et le morceau est sorti, tu vois, donc tout va bien.
Composé sur GarageBand sur l'iPhone ?
Non, sur iMachine.
iMachine.
Et non, y a à l'époque, on fait avec ce qu'on a, on s'achète quelques trucs, mais tu sais, t'achètes genre un synthé, je sais pas, je crois qu'on a un synthé chacun, tu vois, un peu tous différents, des espèces de trucs pas mal, et puis et donc il y a ce buzz autour de nous qui commence, où tu commences à te dire, ah, le jeu devient un enjeu, nouvelle fois, tu vois. Parce qu'en fait, donc là, d'un coup, bah, il y a Trax, tu vois, le truc d'Arte, là, qui viennent faire. Donc, pour l'instant, en quantité de musique, on n'a pas fait grand chose, tu vois. On a sorti un morceau à quatre sur l'EP de Panteros. Panteros a fait un EP. Moi, j'ai dû faire deux EP. Can Blaster, deux EP. On a dû, et Sam, deux EP. Enfin, j'imagine un truc comme ça, tu vois. Ça fait peu de morceaux, en tout. Pardon. Ça fait genre une, ouais, je sais pas, peut-être 15 morceaux, quoi, en tout, okay. À 4. Tu vois, c'est. Et là, les gens commencent à s'exciter parce qu'en fait, on organise des soirées. Dans nos soirées, tu sais, on avait fait une soirée trop bien où on avait invité Philippe Zdar et on avait fait Club Cheval Philippe Zdar. Tu vois qui c'est, Philippe Zdar? Ah, Zdar, c'est le. Bon, je sais pas, c'est dans les plus fat producteurs français.
Okay.
C'est le binôme, un des deux de Cassius. Tu vois Cassius?
Non.
Ah putain, ok. Cassius, c'est un groupe légendaire de la French Touch.
D'accord.
C'était et Zdar, bah il a fait de la prod pour, il a fait du mix pour Kanye. Qu'est-ce qu'il a fait? Attends, mais je sais pas pourquoi j'en ai pas en tête. Qu'est-ce qu'il a fait de fou? Putain, pourquoi je les ai pas en tête, ces trucs fous? Bah, c'est lui qui a fait l'album de Phoenix, par exemple, Volcan Amaeus Phoenix, tu vois.
Ouais.
C'est, je passe dans les mixeurs français les plus forts, Et Cassius, c'est Cassius, I love you so et tout, ça te dit rien ce morceau?
Non, mais c'est peut-être une bonne idée pour Nouvelle École d'ailleurs.
Bah, ça c'est très bien pour Nouvelle École. Allez écouter Cassius, ceux qui ne connaissent pas, c'est très très bien. Et très grosse influence surtout, si vous voulez mieux me connaître. Blague à part. Donc, Zdar vient, et donc, il vient, et puis je sais plus s'il joue gratos ou pas, mais tu sais, il vient, il mixe avec chacun de nous, on fait des soirées avec Tequila Tex, on fait des soirées avec Brodinski, tu sais, et du coup, il y a un truc où les gens, ils commencent à se dire, mais c'est qui ces quatre gars qui viennent de Lille, que personne connaît, qui ont pas sorti de Zik, et que tout le monde trouve, genre, géniaux. Et donc, on fait Trax, le truc d'Arte, là, on fait, on a une double page dans Le Monde. Sur nous et nos influences et nos trucs, tu vois, on n'a toujours pas sorti de musique, tu vois. Enfin, on n'a quasiment pas de surtout pas de musique sous le nom de Club Cheval. C'est-à-dire que Club Cheval, c'est pas un groupe.
Qu'est-ce qui crée cet engouement alors selon toi?
Bah, je sais pas, c'est le côté genre créatif, frais. On fait quelques remixes pour des trucs, on organise des soirées, je sais pas, il y a un truc un peu nouveau et frais, quoi. Tu vois, une espèce d'énergie fraîche qui est au-delà de. Et un truc, tu sais, je dis toujours, c'est horrible ce que je vais dire, mais le cool, en fait, cool, tu vois, mais pas dans le sens cool, le cool qui peut être pas du côté péjoratif, mais le côté cool, c'est-à-dire avoir la bonne idée, le bon truc et tout. En fait, les gens, ils sont toujours genre curieux de ça parce que tu sais pas comment tu l'as, tu vois. Qu'est-ce qui fait que ce mec-là, il va mettre un t-shirt jaune et il va avoir l'air d'un débile, et l'autre, il va mettre un t-shirt jaune et on dirait que le mec, il sort d'un défilé, tu vois. Tu sais, c'est assez cool, tu vois, c'est parce que la taille, la manière de le porter, avec quoi il le porte, bah ça c'est un truc, il y a pas d'explication, tu vois. Pourquoi quand Panteros il fait de la gabber, son truc ça marche et c'est bien, pourquoi quand d'autres gars le font, ça fait un peu genre forcé et bizarre, tu vois, bah ça c'est un truc, c'est le cool. Bah là il y a un truc cool autour de nous qui est bien et à la fois qui est un peu un piège, parce que du coup, nous, on se retrouve avec la presse, une pression de fou, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, genre.
Sur la musique que vous allez sortir.
Ouais, qu'est-ce qu'on va faire comme musique, tu vois? Parce que, du coup, on a pris un studio à quatre. On va pas tarder à signer chez Parlophone. Donc, c'est Warner Parlophone, tu vois. Pour un album. Et puis, tu vois, genre, va falloir se mettre à faire un album. Donc, nous, on se dit, on fait des démos, ça se passe bien, on les fait écouter, tout le monde est assez excité. Et on se dit, bah, il faut qu'on, on va faire, assez vite, on se dit, il faut qu'on fasse un truc un peu R&B du futur, tu vois. J'aime pas le mot, mais c'est un peu notre brief, tu vois. Et c'est ce qui revient un peu dans les arrangements, dans les accords.
Donc, en fait, vous décidez avant presque de faire l'album, quel va être le son du
truc. Mais on avait déjà des démos, tu vois. Enfin, on voit que c'est ça qui va nous rassembler en tant que Club Cheval, le groupe. Ce qui, jusque-là, c'était pas le mot. C'était pas un groupe, tu vois. C'était un
collectif, un clan.
C'était une bande de potes qui font de la zik ensemble et qui ont fait des trucs ensemble, tu vois. Et,
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
J'espère que j'oublie rien dans l'histoire, que j'oublie personne. Désolé si j'ai oublié quelqu'un dans l'histoire, mais c'est pas grave. Mais et donc on passe beaucoup de temps sur cet album. On fait une première grosse maquette.
Qu'est-ce que t'appelles beaucoup de temps?
Bah l'album, on a mis 3 ans à le faire quand même. Mais c'est parce qu'on s'est lancé dans un truc qu'on savait pas faire. C'est-à-dire qu'on On a voulu faire du R&B alors qu'on savait du R&B du futur alors qu'on savait pas faire ça, tu sais, on savait faire de la musique de club un peu bricolée qui était cool mais qui était quand même bricolée. Et là on se lançait dans un truc de faire des chansons avec des mélodies, des chanteurs alors qu'on n'était pas chanteurs. Et
tu penses que c'était bien de faire un truc difficile que vous saviez pas faire ou avec le recul tu penses que vous auriez mieux fait de faire ce que vous saviez faire?
Avec le recul on aurait peut-être dû faire un truc plus vite et plus simple, tu vois. Mais c'est dur de se dire ça. Enfin, c'est toujours facile après coup de se dire ah mais on aurait dû faire plus simple parce qu'en effet on a mis longtemps à le sortir. Du coup, tu vois, ce buzz il baisse un peu ou alors il monte et puis il y a une grosse attente, tu vois. Enfin, il y a tous les pires. Plus t'attends de toute façon pour la ZIC, mais ça on en parlera après. Mais enfin, ce sera plus les conclusions de.
Non mais parlons-en maintenant. Ouais.
Bah non, mais je trouve que en le pire qui puisse t'arriver en ZIC, c'est de ne pas sortir de ZIC. C'est le pire, et que ta musique ne vive pas et qu'elle reste que sur ton ordinateur.
Même quand tu trouves qu'elle est pas nickel, quoi.
Ouais. Parce qu'en fait, même si elle est pas nickel, ça veut pas dire qu'il faut la sortir, ça veut dire qu'il faut la faire écouter. Il faut que les gens écoutent ta musique et que t'aies un retour, et que peu importe, c'est toujours la même chose, il faut que tu fasses écouter le nombre de personnes que... Et en fait, c'est comme ne plus baiser avec ta meuf. Si tu baisses plus avec ta meuf, le jour où tu vas te remettre à baiser avec elle, ça va être awkward. Et si t'attends encore plus, tu baiseras plus jamais. Et puis elle va être gênée. Et puis vous allez être gênée. Et puis dès que vous allez être dans un lit, ça va être bizarre. Ouais, est-ce qu'on doit baiser ou pas? La ZIC, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, mes démos, je les fais plus écouter. Attends, du coup, je l'ai pas fait écouter, mais ouais, attends, je vais pas lui faire écouter ça. Donc après, tu fais plus écouter tes démos à personne. Après, tu fais plus écouter tes morceaux. Après, du coup, tu termines plus tes morceaux. Après, tu sors plus tes morceaux. Et après, tu ne fais plus de musique. Et après, t'arrêtes.
Et tu penses que ce qu'il faut, c'est à la limite quand tu fais un morceau, mais que tu le trouves peut-être pas assez élaboré pour le sortir, c'est au moins le faire écouter aux gens.
Ah ouais.
Et toi, tu fais comment? Tu fais écouter à beaucoup de gens, à peu de gens?
Je fais écouter, j'ai un peu les gens à qui je fais écouter, je sais à qui je fais écouter, mais ouais, je fais écouter, j'ai des potes, à ma meuf, à je sais pas, ouais, mais il faut, genre, des fois, je suis en train de préparer, un album, et j'ai vraiment le début des démos, tu vois. Et j'ai les boules, parce que tu vois, c'est genre, c'est des nouveaux trucs, je chante, tu vois, il y a plein de nouveaux paramètres.
Toi, tu chantes dessus?
Ouais.
Cool.
Mais dans The Sun aussi, mon dernier EP aussi, tu vois. Mais en fait, je suis en rendez-vous comme ça. Et du coup, et je me dis, vas-y, je le fais pas écouter et tout. Et donc, du coup, il y avait Pedro, Buzzy P, qui est mon boss de label, du coup, ma manageuse, et tu vois, et un autre mec, et il me dit, ah, tu fais écouter ou pas? Et moi, je fais, oh non, c'est pas prêt et tout. Et je fais la classique, tu vois, comme tout musicien. À un moment, tu sais, t'es toujours mieux à dire genre non, on n'écoute pas. Et il y a quelqu'un qui insiste un peu. Je fais genre ah bah vas-y, vas-y. Et puis je fais écouter. Et ils me disent mais c'est super, mais c'est vachement bien. Ah non mais nanana et ça c'est super. Et puis ils commencent à te faire des remarques sur les trucs, tu vois. Et en fait, du coup, ça détend tout le monde, ça détend ton entourage sur le fait que tu fasses toujours de la ZIC, que ça avance. Et toi, ça me détend, tu vois. Ça veut dire que je suis pas là à stresser, à me dire putain j'ai pas avancé sur mes démos et tout. Et faut que ta ZIC, faut que tout le monde l'écoute tout le temps.
Quand tu dis tout le monde,
tout le monde veut dire faut que ça vive en fait.
Parce que tu peux aussi, y a un truc qui avec la, j'en avais déjà parlé, je sais plus quel épisode, mais il y a un truc avec la ZIC qui est différent de avec un podcast, mettons, c'est que la ZIC, tout le monde en écoute. Donc quasiment tout le monde a plus ou moins un avis sur la musique en fait.
Ouais.
Alors qu'il y a des choses un peu moins accessibles, genre un podcast de 2 heures, je pense qu'il y a moins de gens qui vont écouter ou qui vont donner leur avis dessus, tu vois. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque de, si tu fais écouter ta démo à genre 50 personnes?
Ah non, mais non, pas 50, tu vois. Ouais. Pas 50. Faut voir un peu à qui tu fais écouter quoi aussi, tu vois. Mais faut, tu vois, tu peux avoir ton pote à qui tu fais toujours tout écouter ou tes deux potes ou. Et puis, mais faut faire écouter, quoi. Tu sais, il y a vraiment, j'ai vu tellement de gens. Qui ne font plus écouter leur ZIC. Et du coup, soit ils n'en font plus, soit la ZIC est devenue bizarre ou pas bien. Ou, tu vois, je pense que c'est une grave maladie.
Ouais. Cool, mais je pense en plus ça s'applique à tout, de toute façon, même quand tu dessines ou quand tu.
Ouais, c'est que si tu le montres pas, tu sais, le fameux truc de laisser ta musique dans ton ordinateur, c'est genre.
Ça t'est arrivé des périodes comme ça vraiment toi ou pas?
Ouais, carrément. Ouais, des trucs où t'es un peu perdu et puis du coup t'as un peu honte de ce que tu fais et puis c'est un peu nul et puis tu sais que c'est nul et du coup tu le fais pas écouter parce que tu sais, et au lieu de le faire écouter, tu sais que t'as un pote qui dit ah non mais je crois que ça c'est bien mais ça c'est pas bien et ça c'est cool et nanana et nanana, et tu vois, et puis ça rentre dans l'ordre parce qu'en fait si c'est un pote qui fait de la zik, il peut te donner un conseil, si c'est quelqu'un d'autre il peut te dire non je pense que quand t'as cette voix là c'est un peu trop cheesy, faut pas faire ça, tu vois. Et ça t'aide, tu vois. Après c'est l'intérêt d'avoir un manager aussi, par exemple, tu vois, genre moi je trouve que c'est un des premiers trucs à faire en zik aussi. Quand je dis un manager, ça veut pas dire que tu dois avoir un fat manager direct qui te donne plein de plans, mais tu vois, avoir un peu le gars qui va t'aider, qui va être avec toi, qui va te donner des conseils ou d'un peu t'orienter. Tu vois, c'est intéressant et c'est important ça aussi.
Comment tu fais pour te sortir quand tu fais plus écouter tes sons et que tu doutes, comment tu fais pour te sortir de ça?
Tu fais écouter. Tu t'y remets, quoi.
Il y a un manque.
Vraiment, compare vraiment ça à baiser. C'est la même chose. C'est un moment, bah, tu dis à ta meuf, bon, bah, je sais qu'on n'a pas baisé depuis 2 mois, mais. Et c'est relou et ça va être chelou, mais faudrait que qu'on s'y remette, et tu vois, ça va être bizarre la première fois, mais tu vois, c'est cool, et puis après c'est reparti, quoi. Non, c'est vrai.
Non, mais c'est une bonne métaphore.
Non, mais pour moi j'ai rien trouvé de parce que c'est un gros combat que je mène.
La baise ou la musique?
La musique. Non, mais un gros combat sur le fait de faire écouter ce truc là, tu vois,
c'est quelque chose que tu dis à beaucoup de gens, par exemple.
Ah ouais, mais bien sûr, et que j'essaie d'appliquer à moi, parce que moi ça a changé ma vie, en fait. Ça a changé ma vie dans le sens où tu vois, tu fais tout écouter, démos, trucs, après pas dans des conditions, tu vois, si demain tu vas voir un fat américain et que tu dois lui faire écouter 3 beats de rap, tu vas faire écouter
des gros beats, quoi, qui marchent,
tu vas faire écouter un gros truc qui tue hyper fort, nan, tu vois, bien sûr tu vas pas faire écouter ta démo pourrie. Mais tu vois, si t'es avec un mec avec qui tu bosses depuis une semaine, tu fais ah, j'ai peut-être eu une idée, attends, tu veux pas écouter ça comme ça.
Il y a un autre truc aussi, c'est donc il y a le côté faire écouter, mais il y a aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté quand tu produis tous les jours, c'est plus facile finalement?
Si. Et faire de la musique, bien sûr.
Comment t'en fais de la musique? Enfin, c'est quoi ta vie de tous les jours de musicien?
Ma vie de tous.
Après, j'imagine qu'il y a des périodes où tu crées, des périodes où tu crées un peu moins parce qu'il y a des promos, des machins.
Ouais, mais... c'est ça, mais non, là c'est marrant parce que j'ai écrit sur un papier et je me suis dit, il faut que je produise 4 heures, faut que je fasse de la musique 4 heures par jour.
C'est marrant, mais c'est un truc que j'avais, que je m'étais dit aussi pour autre chose. À un moment, j'essaie de faire, je me disais 4 heures par jour, ça m'a l'air d'être le bon.
Ouais, je trouve que c'est pas mal, tu vois. Genre quand je bosse avec un artiste, sauf en cas de rush énorme et trucs un peu, tu vois, genre fad et il faut bosser et avancer de malade. Je me dis, ouais, 4 heures, c'est le minimum, tu vois. Mais c'est bien, tu vois. Ça te permet d'être frais, d'avoir du recul sur le truc, de pas trop d'être bien, tu vois.
Parce que quand tu dis ça, 4 heures, ça a pas l'air beaucoup, mais je lisais, ou je sais plus si c'était une interview, mais je lisais un truc sur Rick Rubin, là, récemment, et qui disait, moi, qu'il allait au studio une journée normale, c'est de midi à 6 heures. Une journée où l'artiste galère, c'est midi à 5 heures, et une journée où ça se passe trop bien, c'est midi à 7 heures, quoi, tu vois.
Ouais.
Et en fait, je me disais, ah ouais, et tout, parce que moi, je croyais, tu sais, comme les gens, on parle pas beaucoup de ça, je crois toujours que t'as des gars qui sont dans le studio, genre, 17 heures par jour, à travailler tout le temps, tu sais.
Tu peux pas, en fait. Enfin, c'est pas possible. Enfin, j'ai jamais vu personne. Tu vois, même, par exemple, le corps qui passe énormément de temps à son studio, il est pas tout le temps en train de faire, derrière le micro, à faire des top lines ou à composer de la zik, ou ça. C'est tout, tu vois, tu fais d'autres trucs, tu vas chiller, tu vas parler avec des gens, tu vas faire tes mails, tu vas réfléchir à d'autres trucs, mais tu peux pas être genre, c'est pas possible d'être devant un ordi.
Ouais, finalement, les choses où tu t'aères sont aussi importantes pour le moment où tu crées ça.
Bah, bien sûr. Évidemment, il faut que ton cerveau y réfléchisse, tu vois. Tu vois, moi, des fois, j'ai tendance un peu à être, si je fais genre, surtout si je bosse pas sur mes projets, mais quand je bosse sur les projets des autres, tu vois, où je sais exactement où il faut aller, tu vois, genre un truc de juste faire sonner bien un beat de techno, tu vois, genre j'en sais rien, un truc, faut que ça sonne fat, et puis j'arrive avec un track un peu malade, où il faut juste changer des sons, d'autres trucs. Là, je peux me faire genre 6 heures sans lâcher l'ordi et faire genre, mais tu vois, au bout d'un moment, celui qui est à côté de moi, tu vois, il dit, non, mais là, faut qu'on arrête, mec, moi, j'en peux plus, tu sais, alors que moi, je suis là, tu sais, où tu fais des boucles, des trucs, des tu réécoutes des kicks toute la journée et tout. Mais pour faire du travail un peu à la chaîne comme ça, ça va. Mais pour être créatif et avoir des bonnes idées, il faut quand même que ce soit plus...
Et pourquoi tu... Juste pour finir là-dessus, quand tu dis « je me suis dit qu'il faudrait que je bosse 4 heures par jour », pourquoi tu t'es dit ça, en fait? Parce que justement, tu savais pas trop combien il fallait que tu bosses ou...
Non, je me suis dit ça parce que... Parce que en fait, là j'ai pris de l'avance. Ce qui est rare, en fait, en zik, quand même. J'ai pris de l'avance, c'est-à-dire que j'ai un morceau qui sort dans 2 semaines et il est prêt depuis genre 4 mois, tu vois. Et le clip est prêt depuis 4 mois aussi.
Enfin, du coup, quand les gens écouteront ça, je pense qu'il sera sorti depuis 3 jours.
Eh ben, très bien. Il sort le 7. J'espère que vous avez apprécié ce morceau. Non mais.
Ouais.
Et du coup, bah je sais pas. Je me suis dit, tu vois, il y a tout. Moi, j'ai toujours un truc quand je finis un morceau. Ou alors quand il sort, ou il y a un truc un peu de hangover, tu vois, où t'as besoin de souffler, de voir un peu ce qui se passe quand il sort, et en fait je crois que j'ai plus le temps de faire ça. Avant je me le permettais, mais je crois que j'ai plus le temps. Il faut plus que je fasse ça, en fait. Parce qu'en fait, tu vois, si jamais t'imagines que ton hangover il dure 1 mois,
ouais.
Ça veut dire que ton morceau il sort, tu fais 1 mois sans faire vraiment de zik. Du coup, le temps que tu te remettes à bosser, que tu finisses un deuxième morceau, en fait, ça veut dire que tes morceaux, tu les sors genre beaucoup trop éloignés. Et je trouve que en termes de constance, c'est un peu trop éloigné.
Puis tu rouilles un peu, tu veux dire ou...
Ouais, même pour le public, pour un peu un ouais. Truc. Ce que je veux dire par là, c'est que là, je me suis aussi dit, je me suis un peu donné une discipline de sortir plus souvent des morceaux, tu vois. Et je me dis, en fait, faut peut-être que je fasse moins des trucs de rush où je bosse de malade, tu vois, peut-être être un peu plus chill, tu vois, mais plus un peu travailler plus de manière plus constante.
Et est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu qu'est-ce que je voulais dire autre chose, mais je sais plus ce que c'était. Ouais, il n'y a pas aussi un côté où si jamais tu te laisses ta période de hangover, si par exemple tu sors ton morceau et qu'il est mal reçu, ça peut pas créer du doute aussi, du coup.
Ouais, si, c'est ça. Genre, tu vois, et puis, ouais, c'est exact. T'as raison aussi, c'est que si tu continues à créer des choses, ça te met dans un truc. Je sais pas, la zik, ce qui est bien avec la zik, c'est que, comme tu dis, ça me fait tout oublier, tu vois. Ça, c'est horrible, là, cette phrase, mais elle est vraie.
Ce sera l'intro du podcast.
C'est vrai. La zik, ça te fait tout oublier. non, mais en fait, c'est vrai. Tu vois, genre, je sais pas, moi, si j'ai des soucis dans la vie, je fais de la zik et ça va mieux. Vraiment.
Ouais, ça, comme thérapie un peu aussi, quoi.
Le producteur.
Comme le producteur thérapie.
et du coup, ouais, non, et puis aussi, il y a ce truc de, je me suis dit de bosser aussi 4 heures par jour parce que, en fait, je me suis dit d'avoir un peu une discipline par rapport à ça. Parce que du coup, j'ai aussi envie de faire plusieurs projets en même temps, tu vois, j'ai mon projet mais j'ai des projets pour les autres et du coup j'essaie de un peu ranger un peu plus les choses.
Tu l'avais moins avant, tu dirais, cette discipline?
Ouais, parce que par exemple, si on revient à l'époque, si on revient dans mon histoire,
allez, reprenons la chronologie.
Non, mais c'est marrant parce qu'on revient... Non, mais parce que ce qu'on faisait avec Club Cheval, par exemple, en tant que amateur voulant devenir professionnel, en fait, on passait toute la journée au studio, quoi, dans une pièce à 4 toute la journée, tu vois, pendant 3 ans. Ça, je le résume à ça, mais c'est vraiment ça, tu vois. Dans une salle, on restait 4 heures par jour. Enfin non, pas 4 heures justement. Du coup, 8 heures par jour dans une salle, et on se donnait rendez-vous à 10 heures du matin. Nanana, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, c'était super intense.
Donc
quoi.
Là, il y avait une vraie discipline.
Ouais, c'est le nom de l'album, justement. Ouais. Du fait de ça. Hein.
D'accord.
Ah ouais, il y avait un truc de... Mais en même temps, on savait pas comment faire autrement, on n'avait aucune expérience, on faisait, quoi, tu vois.
Et est-ce que t'avais l'impression de devoir, pour cette discipline, de devoir sacrifier des trucs à l'époque? Moins voir des gens ou de...
Non, non. Bah, on a vu personne. Hein.
En même temps, vous étiez entre potes.
Ouais, c'est particulier, mais en fait, notre vie à l'époque, elle était quand même particulière, mais on le savait pas. Mais tu vois, si je regarde les gens maintenant, je sais pas, nous, on n'allait pas boire des cafés à des terrasses, on n'allait pas boire des bières à des terrasses de café, on n'avait pas particulièrement de potes, pas trop, tu vois, pas trop de bandes de potes. Non, on était à quatre tout le temps et on faisait que travailler, en fait. J'ai l'impression, tu vois. Mais c'était pas si mal, en fait, parce que, en fait, on est ressorti de là, enfin, tu vois, et je te dis ça, on est ressorti de là il y a 2 ans. Et en fait, je sais pas, c'est comme si on avait fait une formation, on avait fait le service militaire, quoi. Parce qu'en fait, on est tous sortis de ce truc-là et maintenant, je sais pas, j'ai l'impression qu'on se met en studio et ça se passe trop bien et c'est. Et ouais, du coup, on a passé 3 ans en studio.
Ouais, donc parce que maintenant, tu dis que tu bosses 4 heures par jour, mais en fait, avant, t'as toute cette période où vous avez.
On a charbonné.
Vous avez malade. Charbonné
peut-être
vraiment.
Dans
quoi.
Le mauvais sens aussi, tu vois, parce que on a travaillé, recommencé 3 fois l'album. D'abord, on était allé voir sous les conseils de Tequila Tex, qui était quand on lui a dit qu'on voulait faire. Notre album un peu R&B et tout, et on disait ouais, on sait pas trop comment pour les chansons et tout, les structures et tout. Il dit bah vous devriez aller voir un mec, c'est un pote, il s'appelle Jérémy Châtelain. Jérémy Châtelain, c'est un mec qui avait fait la Starac numéro 2.
Ah oui.
Et qui est depuis producteur, qui était le mari d'Alizé aussi. Enfin, je dis ça pour qu'on le replace dans le paysage. Et qui depuis en fait était devenu producteur de musique et qui avait un studio chez lui dans une maison à Villejuif, et c'était trop bien ça, parce que c'était genre une maison comme une maison californienne mais à Villejuif. Elle était trop bien sa maison, il avait un Hummer devant et un super studio, et il nous avait dit bah venez, je vais vous aider à faire votre album. Et donc on va chez lui, on passe du temps, on commence à faire les chansons. Ensuite, nous, on est allé à Miami pour faire une croisière électro. Tu sais, c'est genre sur un bateau de croisière. Et on a dit, bah, viens avec nous, on va faire un studio dans une cabine et tout. C'était la folie, quoi. Tu vois, enfin, on se disait genre. Donc, du coup, on avait emmené tout le matos, on faisait de la zig dans le bateau. Et après, on est allé à Los Angeles avec lui. Enfin, on se l'est vraiment kiffé, quoi. Et à un moment, on a vu que l'album n'avançait toujours pas. Parce que ça n'avançait pas, tu vois, on avait toujours pas de chanteur, on savait pas comment s'en sortir pour les voix et tout. Et lui, il nous dit, Jérémy Châtelain, il fait, bah, ce qui serait peut-être pas mal, c'est que vous alliez rencontrer DJ Core. Et moi, je fais genre, waouh, trop bien, tu sais, genre, moi, Core, je connais.
Ah, tu savais qui c'était?
Je savais parce que, à l'époque, moi, donc, j'avais fait le morceau Train to Bamako et donc, j'avais joué quelques fois en Angleterre. Et les DJ anglais, ils jouaient tout le temps, des morceaux de Magic System, les nouveaux. Et que ça sonnait fat. Et je me dis, mais qui est-ce qui a produit ça? Pourquoi ça sonne aussi fat, tu vois? Et c'était DJ Core. Et donc, il me dit, ah, DJ Core, si vous voulez, je vais lui faire écouter vos morceaux. C'est un pote à moi. Je vais lui faire écouter vos démos. Il pourra sûrement vous aider à le faire, à terminer. Et bref, un soir comme ça, on va au studio de Core avec Panteros. Et il dit, ouais, bon, bah, les gars, moi, j'ai adoré vos démos. Je trouve ça mortel. Si vous voulez, moi, je fais le réal de votre album.
Trop cool.
Ouais. Et du coup, il dit, bah, le plus simple, c'est que vous vous installiez dans mon studio.
Encore plus cool.
Ce sera parce que voilà, tu vois, et c'est un peu, il y avait un peu cette histoire avec Zdar, tu vois, dont je te parlais, et Phoenix, tu vois, c'est genre, Core, tu sais, il a des milliards de choses à faire, des milliards de projets. Donc, en fait, le seul moyen de bosser avec lui, c'est de s'installer à son studio et qu'il passe quand il est là, et puis il vient checker, nanana, tu vois. Et lui, il a débloqué plein de trucs, tu vois, sur des structures, des morceaux, ce qui fait les congardes, ce qui fait les congettes. Il nous a présenté ce chanteur qui s'appelle Rudy, qui a chanté sur tout notre album quasiment, et qui était un chanteur de Miami, qui est venu, tu vois. Et puis il y a eu tout ce truc où l'album, en fait, ça s'est mis à tracer de malade, quoi, tu vois. Et puis on a fini.
Grâce à la supervision de.
Ouais, parce qu'en fait, à un moment, nous, tu sais, au bout de 2 ans.
Ça nous a permis d'avoir une vue globale.
Complètement. Complètement le nez sur le guidon de malade, à moitié perdu. Et en même temps, on savait où on voulait aller. Mais tu vois, à un moment, qu'il y a un mec qui vient et qui fasse genre ça, attends, ça c'est pas bien, vous perdez pas, ça pour aller là. Et lui, il est super fort, tu vois. Et surtout, il y a un truc qui est important aussi, que c'est ce que je te disais. Enfin, je te l'ai pas dit, mais c'est que je t'ai quasiment dit. C'est ce truc des 10 derniers %, tu vois. C'est le truc de terminer un morceau. Souvent, j'ai l'impression qu'au-delà du talent, et au-delà du génie musical, de l'inspiration et tout, ce qui va faire un bon musicien, un bon artiste, c'est ces 10 derniers % qui lui permettent de terminer quelque chose et de le sortir. tu vois, souvent t'as tout le temps le mec qui va te dire genre ah ouais mais ça en fait par contre il me manque nanana, du coup j'ai pas encore terminé, ah non mais c'est parce qu'en fait j'ai pas ça, et puis et en fait tu vois ces derniers pourcents ça s'apprend ça aussi, tu vois, à dire bon bah voilà mon morceau est terminé.
Comment ça s'apprend?
Je crois que c'est un truc de confiance en fait, tu vois, ça va être un truc de, à un moment t'as un truc de confiance qui vient, et puis t'apprends à faire bon bah je crois que c'est là, c'est bon, tu vois. Ouais, ça pour, je pourrais encore rajouter des trucs et tout, mais je crois que là c'est bien, tu vois. Et après tu te fous ta barre là où elle doit être, tu vois, enfin où tu penses qu'elle doit être, mais il faut à un moment ces 10 derniers pourcents, ils sont très 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 importants. Parce qu'en fait, si tu termines jamais tes morceaux, ou si tu n'arrives pas à les terminer, ou s'il y a un truc qui te bloque, en fait, t'es baisé parce qu'ils sortent jamais.
Toi, tu dirais que t'avais confiance en toi en tant que producteur ou musicien à ce moment-là?
Non, justement, à l'époque, c'était compliqué, quoi. Tu vois, en solo, ça allait, j'avais sorti quand même quelques trucs, mais j'avais, justement, quand t'es en équipe, t'as le mec qui peut te dire, non, mais mec, ça va, là, c'est terminé. T'as ton pote qui va te dire ça.
Et il faut lui arriver.
Dire, mec, t'es relou, là. Arrête de chercher encore une EQ sur ton kick ou un synthé ou je sais pas quoi. C'est bon. Terminé. Tu vois, et c'est important que... Mais là, avec Club Cheval, on était vraiment dans un moment, je crois, où on a eu besoin que quelqu'un vienne et fasse genre, non, les gars, là, c'est terminé. Et là, il faut qu'on truc. Surtout que derrière, t'imagines bien que la maison de disques et tout le monde faisait genre, bon, les gars, il est temps que ça sorte, là. Et puis on a fini l'album. Et puis il est sorti et c'était cool, quoi. C'était assez assez intense parce que sortir un album en maison de disque, tu vois, c'est toute une aventure, quoi.
Pourquoi?
Bah parce que c'est la prépa, c'est des réunions, c'est toute la préparer la DA, préparer les pochettes, où on a aussi on a vachement retaffé notre image où en fait on a un peu subi à un moment le truc d'être un peu les foufous de l'électro française, tu vois. Tu vois, ce qui nous a permis d'être remarqué à un moment, ça nous a un peu retombé dessus aussi, dans le sens où ah c'est eux c'était le pire truc, c'était les trublions de l'électro, tu vois. C'est vraiment genre putain. Tu vois, à un moment t'as envie d'être pris au sérieux aussi. Tu vois, mais c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui dans ma carrière aussi en solo, c'est que faut toujours que ta balance elle soit bonne. C'est-à-dire que ouais, je suis marrant et les gens ils disent putain, t'es trop marrant sur Instagram, c'est cool, tu vois, tu fais des blagues et tout, et t'es à poil sur ta pochette, c'est cool. Mais à côté, ça veut dire que ta balance à côté en DJ set, t'as intérêt à être chaud et t'as intérêt à que ça tue, et t'as intérêt qu'en prod ça tue, et que quand tu sois en studio ce soit bien, et que tu vois, tu peux pas être sinon t'es un humoriste en fait. Tu vois, c'est ce qui arrive quand les humoristes ils font du rap ou ce genre de choses aussi, tu vois. Putain, c'est un gros truc, tu vois. C'est un gros. Ils arrivent avec une épine dans le pied, mais c'est un pieu dans le pied.
Ouais. L'image, quoi.
Ouais, l'image et le truc, genre. C'est compliqué, tu vois. Faut bien doser le truc. Et là, nous, à un moment, on a dit. On a fait tout l'inverse. On allait voir Etude Studio, qu'on connaissait un peu, qui était à la base une bande, ça ressemble pas mal à Club Cheval, mais plus en mode, ils ont une marque de fringues et ils ont un studio de création. Et on leur a dit, on est chaud que vous nous fassiez toute notre DA. Et eux, ils ont eu l'idée maligne de dire, vas-y, on arrête, vous habillez tous pareil en col roulé noir. Et ce sera ça, le truc de Club Cheval. Et Club Cheval, c'est plus un collectif, c'est un groupe de musique. Et en fait, ça a simplifié tout et ça a rendu tout le truc genre beaucoup plus lisible. En fait, Club Cheval, c'est un groupe de musique composé, si on cherche un peu, de 4 musiciens qui ont des carrières solo.
Donc en fait, toute cette question d'identité, elle est essentielle.
Ouais, bien sûr, parce que...
Mais elle vient après la musique quand même, non?
Elle vient après la musique, évidemment. Mais c'est ton identité, c'est hyper important. C'est hyper important. Surtout, enfin, c'est con à dire, mais enfin, je veux dire, surtout aujourd'hui, ça a toujours été le cas en même temps, mais ouais, tu sais, c'est compliqué de, après, ça veut pas dire que tu dois créer un truc, tu veux pas dire que tu dois avoir un logo, et ça veut pas dire que tu dois avoir une couleur de cheveux bizarre, forcément. Mais faut qu'entre ta musique et toi, et ce que tu montres de toi, faut quand même qu'il y ait un alignement des planètes. C'est ça, parce que, faut que ça sonne vrai et que ce soit excitant.
Et pourtant, alors que pourtant, ça peut pas être une représentation fidèle de qui vous êtes complètement, ni de qui t'es complètement, quoi. Tu choisis quand même de montrer une certaine facette.
Ouais, bien sûr, mais comme dans la vie. Tu vois, tu peux être, peut-être t'es dépressif et je le sais pas, tu vois, ou t'es déprimé, ou, mais tu vois, tu vas me dire, ouais, non, tu t'as pas envie de montrer ça pour une raison ou pour une autre. Tout comme à un moment dans ta carrière, tu as décidé de montrer plus, tu vois, moi je préfère montrer dans mon image, je vais plus montrer ce que je fais en musique électronique ce que je fais en rap par exemple, je vais plus le montrer, tu vois. Si tu cherches, tu vas trouver le reste, mais c'est comme ça, tu vois.
D'ailleurs le rap, j'imagine que, enfin, t'as produit pour du rap, t'as produit même des trucs qui ont super bien marché comme Champs-Élysées pour SCH avec DJ Core,
ouais,
qui a été un énorme hit en fait. Dont d'autres, hein. Il y en avait un pour la crime qui avait super bien marché aussi.
Ouais, tout le monde veut délover.
Tout le monde veut délover.
Bah, ça, c'est le premier que j'avais fait avec Core. Mais ça, c'est un peu la suite de l'histoire, en fait.
Ouais.
Parce qu'en fait, parallèlement au moment où on finit l'album de Club Cheval, moi, je traîne toujours au studio là-bas, on a toujours une cabine là-bas, et notre matos, et donc on fait du son là-bas tout le temps. Et avec Core aussi, on a fait à deux l'album de Brodinski.
Ouais.
Et du coup,
ça s'appelait Brava, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et on a passé plein de temps ensemble et on s'adore. Et encore, c'est vraiment un très très bon pote. Et même un frérot. Mais c'est lui qui dirait ça plus que moi. Mais moi, quand je dis pote, ça compte comme frérot. Et en fait, du coup, vu qu'on est dans un studio ensemble, et là, c'est ce que Core m'a appris pour le coup. Core, il a vraiment vachement contribué au fait que j'ai confiance en mes beats, en le fait de faire de la zik, de terminer des trucs, d'avancer, de faire plein de zik. Tu vois, c'est lui le premier à m'avoir dit « Bon, je crois que ta formation du Padawan, là, elle est terminée. » Tu vois. Mais c'était pas lui qui me l'avait forcément donné, mais c'est lui qui disait « Ouais, je crois que t'es prêt à y aller, quoi. » Tu vois, et ça te donne la confiance à un moment, tu vois, qu'un mec comme ça, il te le dise. Tu vois, lui... Ah, trop bien. Il y avait des mouches qui...
Des mouches énormes.
Qui baisaient aussi. Et tu vois, genre...
Elles ont entendu tes conseils, elles se sont...
C'est ça. Il faut y aller. Et en fait, je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, donc du coup, Core, ouais, on est au studio, il m'a appris un truc. Donc, mis à part ce truc du Padawan, mais il m'a appris à ce truc de l'accident en studio. C'est-à-dire que c'est le premier que j'ai vu qui peut faire écouter un truc pas fini dans un studio. Il y a 10 personnes. Et au lieu de demander son avis au mec de la maison de disque, il va regarder l'assistant et il va lui dire « Qu'est-ce que t'en penses alors ?» Et l'assistant, il va lui dire un truc qui est peut-être pas un truc aussi formaté qu'un mec de maison de disque qui serait là ou un autre musicien, tu vois. Et en fait, bah ça peut être l'accident parce que le mec, il va peut-être lui dire « Attends, je crois que le nanani nanana, tu vois. Et le premier couplet, tu devrais le diviser par deux. » Et il va essayer, en fait, ça va créer un truc. Ça peut être ça, un accident. Mais un accident, c'est aussi DJ Core qui produit Club Cheval. Ou un accident, c'est aussi Mid qui fait un truc pour SCH.
Comment tu fais pour favoriser les accidents, alors? Si c'est ça qui crée des surprises.
Ça peut tout est possible, en fait. Ça peut partir d'un truc super cheesy en studio. Utiliser des sons que t'as pas l'habitude d'utiliser ou un synthé que t'as pas l'habitude d'utiliser, faire venir quelqu'un en studio avec qui t'as pas l'habitude de bosser, mettre quelqu'un sur un projet en qui tu sais pas vraiment si tu peux avoir confiance ou pas, mais tu testes pour voir.
Ça veut dire être ouvert d'esprit.
Faut être ouvert.
Laisser le projet un peu aller avancer ou rouler un peu sans trop mettre de non, ça va pas marcher parce que c'est comme ça. Ou...
Ouais, c'est ça. Tu vois, et je trouve que Core là-dessus, c'est trop bien, quoi. Tu sais, quand il me demande de faire le Tout le monde veut délover, je sais pas, j'ai jamais fait de beat de rap de ma vie, quoi.
Donc, en plus, t'en écoutes même pas spécialement.
Bon, j'en écoute comme tout le monde en écoute, tu vois, parce qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle pop, mais,
ouais.
Mais j'écoute pas plein de rap. J'en écoute beaucoup, mais pas, je suis pas spécialiste du tout. Et il me dit, ah, vas-y, bah, teste de faire un truc, tu vois.
Ah ouais, il dit ça?
Ouais, il me dit, ouais, écoute ça, nanana, il me met 2-3 refs et il me dit, bah, fais-le et tout. Et puis, en fait, je lui envoie un truc et puis il me refait un retour et puis après, c'était, le morceau, il est hyper bizarre, tu vois. L'instru, c'est n'importe quoi dans le sens où c'est ni un morceau d'électro, ni un morceau de rap, il y a une espèce de guitare espagnole dessus. Il est chelou, tu vois. Il est vraiment bizarre, le truc. Et dessus, après, Core, il a bien sûr la science de la top line, tu vois. C'est-à-dire la mélodie de voix, tu vois, lui, c'est un génie de ça, tu vois. Moi, c'est la personne la plus forte que j'ai vue de toute ma vie là-dessus, tu vois. Ouais. Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il écoute, le Champs-Élysées, ça part de là, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'étais en train de faire le beat et il passe à côté, il fait, attends. Et là, il prend toujours son iPhone avec son dictaphone et puis il se met à faire un yaourt, tu vois, c'est-à-dire chanter sans parole, tu vois. Et il fait, Non, ouais, tu vois. Et tu sais, tu fais genre, waouh, c'est un hit, mec, c'est un truc de ouf. Tu te dis pas ça, tu te dis genre, waouh, c'est chaud de malade, tu vois. C'est chaud, tu vois, c'est genre. Et il trouve toujours des mélodies comme ça en deux secondes, trop fortes. Bah, tu vois, sur mon morceau The Sun, qui au final est le morceau le plus fort de mon dernier EP, c'est lui qui a trouvé la mélodie de voix. C'est trop bien, tu sais, je lui envoie le morceau un soir. Et je lui dis, ah, tu veux pas chercher un truc de mélodie? Tu m'avais dit que tu pouvais peut-être me trouver un truc et tout. Et il m'envoie un truc à l'autotune dégueu. Mais alors, la mélodie, et après, je coupe dedans les morceaux, je fais un petit edit. Et en fait, il avait trouvé le na, 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 na. Et il l'avait trouvé. Et c'est ce qui fait que le morceau est, enfin, c'est un des gros trucs du morceau.
Toi, tu les trouves, c'est moins une de tes forces, ça?
Ouais, les mélodies, c'est moins mes forces, ouais.
C'est quoi tes forces, toi, tu dirais?
Peut-être, je sais pas, réussir à avoir ce truc pop et ouvert, mais sans être putassier, quoi. Je dirais ça, la force, tu vois, un truc de... C'est plutôt un truc de goût, en fait.
Comment tu veux pas être putassier?
Je sais pas.
C'est une vraie question. Il y a des trucs qui sonnent pop et facile et qui en même temps déchirent, et des trucs qui sonnent pop et facile et qui c'est horrible, quoi, tu vois.
Ouais, mais là c'est un truc de goût, c'est comme un cuisinier, tu sais. Moi je suis nul en cuisine, mais tu sais, je sais pas, je vois t'as des mecs, tu sais, ils foutent un petit truc d'épices et puis après ils foutent un peu de sucre et puis je sais pas, un autre truc chelou, et tu fais genre ouais, mais c'est trop bonne idée, t'as eu ça où? Bon, je sais pas, c'était l'inspiration, tu vois. Alors pourquoi moi un jour je vais me dire genre attends deux secondes, prends cet accord là et mets-le à la place de celui-là et attends baisse le volume et puis mets tel effet dessus trop bizarre. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, vas-y. Et après tu fais genre ah ouais, trop bien, tu vois, c'est vraiment c'est miroir, tu vois, c'est la même chose. Et franchement, malheureusement, ça je sais pas l'expliquer, mais je crois que c'est un truc de goût, en fait.
Et un truc que je voulais te demander, parce qu'on parle du rap, c'est comme t'étais pas t'as pas tellement écouté de rap, même j'ai écouté pas mal d'interviews de toi, tu t'en écoutais pas non plus tellement quand t'étais ado.
Non.
À la limite, t'entendais peut-être Eminem et 50 Cent à la radio, mais.
Ouais. Et j'avais la cassette de NTM aussi. La cassette audio.
Et du coup, la transition à produire des morceaux de rap, finalement, c'était, tu te disais pas, qu'est-ce que je fais là? Notamment quand t'es allé à Atlanta, c'est que t'as bossé avec des rappeurs à Atlanta.
C'était trop bien. Justement, tu vois, c'est ça qui est. Tu verras que, en fait, ce qui est assez drôle quand je fais un peu la rétrospective, et pourtant, tu vois, j'ai que 30 ans. Mais quand je fais la rétrospective, je me dis putain, en fait, à chaque fois, c'est des trucs de kiff et de faire des trucs que j'ai jamais fait, en fait, tu vois. Je sais pas, des fois, je suis au supermarché, et tu vois, je vois un truc que j'achète tout le temps, et je vois le même produit, mais à un goût chelou, tu vois. Bah, je vais dire, vas-y, je teste celui-là, tu vois. Alors que je sais que je préfère l'autre, mais je veux toujours tester le nouveau truc. Et après, j'avais acheté du jambon végétarien. À Ost.
Ouais.
C'est du jambon, mais sans jambon. Et je l'ai acheté quand même. Alors que je voulais du jambon normal.
Et c'était comment?
Bah, c'était horrible. Mais c'était horrible. Bon, là, en zig, heureusement, j'ai un peu plus de chance que ça, mais c'est toujours ça, tu vois, genre, on va me proposer un truc, et je vais toujours, et ça, c'est un truc, c'est apprendre à dire non aussi. Mais ça, c'est maintenant, c'est aussi assez récent.
Comment tu fais pour dire non maintenant?
Bah, je dis non. Pour dire non, il faut dire non.
Ouais, non, mais parfois, c'est le plus.
C'est dur. C'est
plus
trop,
de savoir
dur,
à quoi dire non aussi, peut-être.
Ouais, non, c'est plus genre.
Parce qu'en plus ça marche, plus t'as des opportunités
dire
cool.
Non, et puis, tu te dis merde, ça aurait peut-être été bien quand même de le faire. Et puis, le mec va être déçu. Et puis, peut-être que je rate quelque chose. Tu te fais une petite pause des milliards de questions. Et tu vois, avant, je disais jamais non. Quitte à être dans la merde, tu vois, quitte à être de retard, tu vois, mais donc j'essaie de faire attention aussi. Et puis, Et puis voilà, mais je disais ça, ouais, donc le rap, non, c'était la première fois que j'ai fait du rap, c'était avec Brodinski, du coup. C'était ça la vraie première fois de quand en fait et c'est ça aussi ça m'a vachement débloqué en termes de confiance, ça m'a donné la confiance de ouf. C'est quand Brody m'a proposé de faire son album, c'était ouf. On avait déjà produit pour lui avec Club Cheval, on avait fait plein de morceaux, on en produisait à 4 pour lui et on avait fait plein de morceaux de club et tout. Et quand il a fait son album, il a fait ouais, je pense que c'est mieux que ce soit toi tout seul, ce sera plus simple et on pourra mieux communiquer, ce sera en termes de logistique, on peut pas avoir quatre producteurs sur un album parce que là c'était pas de la réal, en plus c'était de la, enfin la différence entre réal et production, je sais pas si tu vois le,
il y a un côté la prod supervision et un côté
la réal, t'as que un moment à ouais superviser, tu touches aussi hein, mais
la réal c'est genre Rick Rubin et la prod c'est genre les mecs qui font des beats quoi.
Ouais, on va dire ça, mais après les uns font les, enfin tout le monde fait tout, mais pour simplifier
je crois pas qu'il touche trop lui les prods hein.
Peut-être qu'il met quand même des... Il choisit un moment les sons,
oh, ouais, ouais, sans doute. Ouais. Je ne sais pas.
Et en fait... et du coup, avec Brody, ouais, on a fait l'album. Et c'était un truc où, tu sais, un premier mec, et c'était Brody, c'est pas n'importe qui, tu vois. Il me dit, ah, vas-y, on va faire mon album. Du coup, on va pas mal voyager, on va faire ça. Et puis, je veux qu'on crée un nouveau truc. Ce sera du rap mélangé à l'électro. Faut qu'on réfléchisse comment on va faire et tout. Tu sais, c'était genre...
Trop cool.
Ça tue, tu vois. C'était une grosse pression
ça
aussi.
Ça mettait
hein.
La pression, ouais.
Ah bah ouais, bien sûr. Tu sais, c'était quand même une grosse pression. Et surtout que c'était aussi, on allait à l'encontre de ce que ses fans voulaient, tu vois. C'est un drôle de truc, mais c'était bien.
T'essaies de faire ça, t'essaies d'avoir, comment tu fais pour gérer l'attente des gens ou les, quand tu produis de la musique? Est-ce que tu y penses?
Tu l'as en tête, évidemment, mais plus tu y penses, plus tu te trompes, tu vois, je trouve. Et surtout, moi, je suis hyper nul en, Je suis un mauvais stratège. C'est-à-dire que souvent je me trompe sur les trucs. Tu me fais écouter un truc et je me dis ah ouais ça c'est bien en fait, tu vois, le truc marche pas. Enfin, c'est pas dire que j'ai pas une bonne vision. J'ai la vision mais et ça marche plutôt, ça marche pas mal. Mais c'est plus genre quand j'essaie de faire de trop réfléchir en fait. Et trop, ça marche pas vraiment. Quand je suis mon instinct, ça marche beaucoup mieux. Et du coup, ce truc du public, ouais, t'y penses. Mais c'est, tu dois l'avoir en tête quand tu commences, en fait. Mais là, sur Brody, c'était particulier parce que c'était lui qui était fan de rap depuis toujours, qui faisait de la techno depuis toujours. Et à un moment, qui fait, bah ouais, mais maintenant, on va arrêter de mélanger les deux. Moi, j'en ai marre et on va faire du rap. Et on va aller rencontrer mes idoles du rap et les mecs d'Atlanta et tout. Et puis voilà.
Et signé chez Headbanger, c'était, enfin, comment ça s'est passé?
C'est super.
Ouais, parce que c'était un peu les trucs dont t'étais fan quand tu m'en dis ça, quoi.
Ouais, et puis c'était un, et je t'avoue que c'était, c'est une vraie, tu sais, il y a tout, en fait, c'est le moment aussi où, en fait, on a toujours été avec Club Cheval. En fait, ça a pris beaucoup dans nos vies et dans nos en temps. Tu vois, c'est ce que je te dis. C'est vraiment, j'ai passé de mes 20 ans à, je sais pas, de mes 20 à 30 ans quasiment. En fait, tu vois, à être un Club Cheval. Tu vois, donc c'est à tuer. On a tourné, on a fait des lives, on a fait l'album, on a fait des milliards de remixes, on a tourné dans le monde entier. Ça tue, c'est trop bien. Mais à un moment, tu vois, moi je sortais des EP à côté, mais les EP, tout le monde s'en battait un peu les couilles. Enfin, ils trouvaient ça cool et ils étaient contents. Et je tournais un peu en solo aussi, mais c'était pas. Mais là, quand j'ai fait cet EP, je l'ai fait en sortant de, comme je te disais tout à l'heure, du service militaire, quoi. Ouais. Tu vois, j'ai pas fait de service militaire pour ceux qui prennent le podcast.
Personne prend ça à la fin. Non, mais remarque.
Et non, c'est en sortant de ça, tu vois, j'ai vraiment l'impression d'avoir une formation de port, tu vois, c'est-à-dire que comment terminer des morts, tout ce dont je te parle, en ouais. fait, c'est un peu comme si tout ce truc avec Club Cheval, ça m'avait aidé à comprendre ce que je voulais, tu vois. Et je réécoutais l'album de Club Cheval il y a pas longtemps parce que je l'avais pas trop réécouté. Et dedans, on a eu une interlude chacun et qui est censée un peu représenter notre style. Et en fait, mon interlude, il y avait déjà ces trucs de tape, le son un peu sorte de 70s retaffé moderne.
Ouais, après, même les guitares sur ton EP, il y a des moments où elles sont un peu désaccordées.
Ouais, et
tout.
J'ai l'impression, en fait, que comme si, mais je m'en souviens plus parce que je m'en souviens plus, mais de quand je l'ai fait. Mais je me dis, putain, en fait, j'avais déjà cette idée-là. Et en fait, pour la première fois, là, j'ai eu du temps où je me suis dit, genre, vas-y, là, je fais mon EP. Et je sais pas, c'est comme si j'avais eu un peu le déclic de me dire, vas-y, c'est maintenant. Bromance, le label sur lequel j'étais, qui était le label de Brodinski. Donc, en fait, c'était aussi la même famille. C'était aussi le label de Club Cheval aussi. Enfin, tu vois, à un moment, ça, Bromance s'arrête.
Ouais.
Et en fait, je suis dans un truc où c'est genre, bon, bah, j'ai 30 ans. Qu'est-ce que je fais, tu vois? Tu vois, et je me dis, bah, vas-y, c'est maintenant, tu vois. Je sais pas, j'ai senti une espèce d'énergie où je me suis enfermé en studio, j'ai fait, cette EP, là, All Inclusive. Et, je sais pas, ça a mis un peu de temps, tu vois, j'ai mis genre, je crois, peut-être 6 mois à le faire. Mais en fait, j'étais trop content de la zik, tu vois. J'ai jamais été aussi content, je l'adore, j'adore les morceaux, j'aime bien les voix, j'aime bien tout. Même si je l'ai pas fait de manière différente de mes autres EP ou de la musique que je faisais d'habitude, mais je sais pas, là, il y avait un truc...
Un peu comme si t'avais vraiment terminé ta formation, quoi.
Ouais, il y avait un truc où c'était cool, tu vois, et ce truc de gratte aussi, j'étais trop content, parce que c'était un vrai truc auquel je réfléchissais depuis longtemps, où je m'étais dit, il faut que je foute des grattes dans un morceau à Wham.
Le côté remettre des vrais instruments ou juste la gratte?
Non, je voulais mettre de la guitare. Et je voulais mélanger ça, et je sais pas, là, la sauce a pris, tu vois, c'est comme... J'ai fait ma forme comme le truc de cuisine là, j'avais fait Top Chef, tu vois, j'étais un peu en roue libre et j'étais genre ah putain, attends, je vais prendre un guitariste et je vais le faire venir au studio, puis on va tester ça et puis nanana, et puis en fait c'est une guitare que mon père m'avait achetée aussi, une guitare pourrie à chier, tu vois, genre un truc vraiment de merde, tu vois, la guitare de The Sun là, c'est une guitare genre pareil, c'est le truc, tu me parles d'instrument, c'est pas une guitare à 10 000 balles ni à 1 000 balles ni à 500 balles ni à 200 balles, je crois. À mon avis, ça coûte genre 120 francs suisses. Et en fait, tout s'est imbriqué comme ça. Et quand j'ai terminé l'EP, je sais pas, je me disais, maintenant le label, tu vois, faut que ça sorte et tout. Et puis Pedro, et puis rencontre, on se connaissait déjà un peu, tu vois. Moi, je connaissais déjà un peu tous les gars, tu vois, on traînait un peu ensemble quand même. Mais pas tant que ça, tu vois, un peu. Et puis, en fait, c'était parti. Mais il était chaud. Au début, il me l'a pas dit. Donc, j'ai badé de malade.
Ah ouais?
Ah bah ouais, bien sûr.
Tu l'as fait écouter et après, t'as pas eu de réponse, c'est ça?
Ouais. Mais je l'ai fait écouter en face à face. Et au début, il a rien dit. On est allé manger.
Il a écouté, il a pas...
Si, il a dit, ah, c'est cool. Et il a rien dit. Ensuite, on est allé bouffer. Ensuite, on est retourné au bureau. Et là, il m'a rien dit. Il m'a dit, ouais, bah, cool. Nanana. Ah non, là, ce qu'il m'a dit quand il a fini d'écouter, il me dit, mais du coup, tu pensais à le sortir où, ce morceau? Et j'ai dit, oh merde. C'est foutu, quoi. C'est baisé, tu sais. C'est comme si tu... Bah, pareil, je vais refaire le truc avec les meufs, mais tu vois une meuf et elle te dit, genre... Ah, faut que je te présente ma pote, alors que c'est elle que tu veux dater, tu vois, trop bizarre. Tu sais, donc là, j'étais un peu genre... Et en fait, après, on s'est reparlé, il a dit, je suis chaud et tout.
Là, c'était trop content. Hein.
Ah ouais, c'était trop bien. C'était vraiment une super bonne nouvelle. Et puis, et du coup, je suis allé voir Alice Moitié et je lui ai dit, on se connaissait déjà. Et je lui ai dit, faut que... Elle avait déjà pris des photos de moi et tout. Et je lui ai dit, faut que tu fasses mes photos promo pour le... Parce que je vais sortir un truc chez Headbanger. Elle me fait, ah, trop bien et tout, super, bonne nouvelle. À fond, tu vois. Et on réfléchit. Et on se dit, ah, il faut trouver un truc un peu beauf, mais en même temps un peu classe, marrant, tu vois, un truc qui aille bien avec la zik et tout. Et on se dit, putain, mais en fait, un bateau de croisière, ce serait ouf. Et puis, 2 semaines plus tard... En une semaine, en gros, on appelle tout le monde et on dit genre, ok, est-ce que vous êtes chaud de financer la croisière? Il nous faut rien, tu vois, ça a coûté rien du tout en fait. Enfin, le clip, mais il nous fallait un budget pour un premier EP. Le label, tu sais, normalement, il va pas investir des milliards. Et ils ont fait ouais, vas-y, go. Mais dans ce cas-là, si vous y allez, vous faites un livre de photos, un clip et toutes les photos promo et vous revenez avec un vrai package. Et puis on est allé une semaine et puis voilà. Et en fait, ça aussi, ça a bien marché parce que Alice, à un moment, elle a eu le nez sur. Moi, j'étais sur un moment super heureux, tu vois, musicalement. Du coup, je sais pas, j'étais super en phase avec Mazik, moi-même et tout. Et elle a réussi à appuyer dans ce sens-là, tu vois, et à servir de ça pour appuyer le pas le personnage, mais le moi et on le sent dans le clip, tu vois. Mmh. Au final, dans le clip, c'est, tu sais, les gens ils disent et du coup dans le clip, nanana, je fais bah c'est moi en fait, tu sais, genre tu m'emmènes en vacances, c'est la même chose, tu vois. On se marre, je rigole, j'adore l'Asie, on chante, on va au karaoké, on fait du quad, et après on va faire du jet ski, se marrer, je sais pas. Et c'est là où ça tue, tu vois, c'est que là il y a eu un vrai alignement des planètes entre le label, la musique, moi, l'image. Peut-être un truc, ça c'est vraiment de la chance, mais un truc de mode du moment qui a fait que tout ça, c'est ça genre. C'est comme t'alignes tout, après tu mets un pic à brochette, tu vois, pour un peu genre tout soit encore plus figé, et qui fait que tout ça, ça fait genre waouh. Et là j'ai eu cette chance là, tu vois, que tout ça se passe bien, et puis après tout s'est enchaîné sur les voilà.
Et du coup là tu sors un nouveau single.
Et du coup là ouais je sors un morceau.
Enfin en fait il est déjà sorti si vous écoutez ça, mais
j'espère qu'il vous plaît.
Allez l'écouter, c'est sans doute le premier lien.
Ouais.
En dessous du lien pour me donner de l'argent, quand même.
Ah, c'est
certainement
ça.
Juste
donner,
en dessous de ce lien.
De l'argent et après donner ment en achetant mon morceau, ce qui est pas possible.
Finalement, ça te rapporte pas beaucoup les streams, non?
Non, pas trop. Non, non.
Comment tu gagnes ta vie principalement, toi?
Comment je gagne ma vie? Je gagne ma vie grâce au live, enfin au DJ set. Je fais pas mal de DJ set où je joue ma musique et la musique des autres, donc mes morceaux que je remixe ou pas en fonction, tu vois, des versions spéciales, et puis tu vois, et je fais des DJ sets, ça c'est trop bien quoi, c'est, j'adore ça, c'est la fête, tu vois, bah on a commencé l'interview
avec Fatboy Slim,
et en fait ça m'a, j'ai été un peu ému cet été parce qu'en fait il y a un morceau dans un des lives dans le DVD de Fatboy Slim. Et là je jouais à Benicassim en Espagne, et c'est un festival où il y a beaucoup d'anglais, tu vois, et je me dis putain vas-y, il faut que je joue le morceau que Fatboy Slim il joue dans son truc, tu vois, et c'est un morceau super anglais, tu vois, genre un peu abusé, tu vois, genre tu pourrais pas trop le jouer en France, tu vois, ce serait un peu chelou, et je l'ai joué et c'était trop bien, tu sais, genre devant une foule et tout, et je me suis dit putain ça c'est cool, tu vois, il se passe quand même un truc, et je suis pas trop genre émotif et tout, mais là j'étais un peu genre putain.
J'ai l'impression que la boucle est bouclée, genre.
Non, bah non, parce que tu sais, j'ai que 30 ans et qu'il reste des trucs à faire quand même. Mais tu fais genre, ah ouais, ça tue, quoi. C'est vraiment super. Et du coup, je sais plus pourquoi je disais ça. Parfait. Ah oui, tu me disais comment tu gagnes ta vie. Donc les DJ sets, et puis la SACEM pour le rap, et puis je fais de la réal pour des artistes aussi. Là, je viens de, enfin. Quand vous aurez écouté ce podcast, j'aurai fini quasiment l'album de Giorgio, le rappeur Giorgio. Je sais pas si ça te parle.
Je connais pas.
Et ben c'est un.
Mais je vais aller découvrir.
Bah faut aller découvrir.
J'ai plein de trucs à aller découvrir là.
C'est vraiment super. Enfin on a passé beaucoup de temps en Suisse à terminer son album. Il est français, mais on a passé du temps dans la campagne suisse.
Pourquoi en Suisse? Pour être au calme.
Pour pas être dérangé. Et pour le coup là, on n'a pas fait 4 heures par jour, quoi. On a fait. Des journées de fou, mais c'était vraiment super parce qu'on avait que ça à faire et on a super bien avancé, et ça va être un super album.
Trop bien.
Et donc voilà. Et donc ouais, donc là j'ai hâte que maintenant je suis sur mon nouveau morceau avec un nouveau clip réalisé par Alice Moitié aussi.
Donc tout ça sort le 7.
Ouais, avec une fête qui est déjà passée du coup aussi.
Ah oui, si vous écoutez ça, elle est déjà passée.
Ah non, elle est déjà passée.
Dommage, vous n'étiez pas à la fête.
Où il y aura Moodoid en DJ set, qui est un groupe français qu'il faut découvrir aussi, chanteur français. Justice en DJ set. Buzzy P avec Can Blaster. Donc en fait, vous retrouvez un peu les personnages de cette histoire. Les avez déjà retrouvés.
Ça, ils viennent à la fête un peu comme quand tu regardes Shrek. À la fin, t'as genre la teuf et t'as tous les personnages qui viennent jouer de la musique.
Ouais,
et
mais c'est hyper important pour moi en fait. C'est important que de. Tu sais, il faut jamais quand je te parle de toile d'araignée, tu vois, c'est si tu peux faire des liens comme ça, tu vois, sans que ce soit des Tetris un peu abusés, tu vois, mais c'est toujours plus cool, tu vois.
Ouais.
Ça a toujours du sens. Tu vois, là, on va être que des potes en train de jouer. Donc, en fait, au final, c'est trop bien, quoi.
Bah, merci beaucoup.
Ouais, c'était...
Mid.
Bah, j'espère que l'histoire vous a plu.
À moi, elle m'a beaucoup plu, donc je me fais pas de soucis pour les gens qui écoutent.
Trop bien. Bah, merci à toi.
Non, petite question quand même. Les gens qui ont aimé, s'ils veulent en savoir plus sur toi, donc il y aura le lien vers ta nouvelle chanson.
Ouais.
Ou ton clip.
Ouais.
Et sinon, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te suivre sur Instagram, par exemple?
Bah, moi, je trouve que moi, mon réseau social de prédilection, c'est Instagram.
Ok.
On rigole beaucoup.
Donc c'est MYD?
Midsound, MYD, SOUND.
Ok.
Et puis après, ouais, je crois que c'est le mieux, c'est ça. Et puis, comme d'hab, hein, Facebook, pas terrible, mais quelques infos. Wikipédia, quelques infos, mais pas terrible. Et puis voilà, et venez me voir en concert.
Trop cool. Merci beaucoup.
À plus tard.
Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École, c'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez rejoindre cette communauté et soutenir Nouvelle École à partir de 2 euros par mois, soit un café par mois en allant sur patreon.com/Nouvelle École Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien manquer des actualités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Nouvelle École. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine. Nouvelle École, je donne ça à l'ancienne.